Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On est en novembre 2021, c'est l'épisode numéro 215. Je suis Patrick Béja, on va vous parler de Battlefield 2042, le jeu potentiellement de la Discord. On va parler de jeux de combat, des choses intéressantes qui se passent dans ce domaine ou qui vont se passer bientôt. Évidemment les news avec GTA Trilogy, des news du côté de plein de news de l'industrie et puis du côté d'Activision Blizzard évidemment. Ça c'est si on réussit à tout faire parce que je vais vous expliquer dans une seconde, les conditions de cet enregistrement sont un petit peu particulières, mais je vais quand même accueillir dans l'émission d'abord Trinity, Priscilla qui est là. Comment ça va Priscilla?
Eh ben, ça va très bien. Et félicitations, 215e épisode. Le chiffre vient de résonner dans ma tête, c'est énorme. Et oui, moi, écoute, comme je te dis, tout va très bien. En plein déménagement, on écrit un livre et on fait des podcasts. C'est génial.
Tu sais, j'ai oublié, je voulais faire la présentation en faisant une super blague sur le fait que tu testais en live la suite de Unpacking, que c'était Packing, en fait. C'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Les viewers n'arrêtent pas de me le dire. Ils m'ont dit, eh ben voilà, tu vois, tu l'as ton entraînement de déménagement. J'ai dit, oui. Seulement, c'est un petit peu moins rose bonbon et pixelisé que dans Unpacking, tu vois.
Ouais. C'est des trucs métal avec des crânes et des pics partout, c'est ça.
Mais toi, si les gens passent pas sur ma chaîne avec ce podcast, ils doivent vraiment m'imaginer, tu sais, avec des crânes ensanglantés au bout des mains et tout, toute la journée, quoi.
Non, alors qu'en fait, c'est la cuisine sympa, les balades, c'est sûr que c'est une ambiance un peu différente.
Ouais, mais un peu de métal quand même.
Un petit peu, oui, bah, y a quand même voilà. Le Hellfest au bout du compte, hein, c'est ça.
Ouais, exactement.
On a également à l'autre bout du fil Panta, alias Johan Bensemoun. Comment ça va? Comment vas-tu?
Oui, bonjour, ça va très bien. Ça va très très bien. Écoutez, moi, pas de déménagement à prévoir aujourd'hui, mais pas mal de taf pour JV, du coup. Des vidéos, des lives, des. Bon, bref, vous connaissez le rendement et du coup, on taffe d'arrache-pied avec la fin d'année qui arrive. Donc voilà, ça fait plaisir de participer à un petit podcast pour se changer les idées également. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Bah, très heureux de te recevoir aussi pour la première fois. Du coup, j'espère que ça se passera bien. J'ai l'impression quand même un petit peu une figure de la twittosphère vidéoludique francophone. Donc, je suis honoré que tu nous réserves un petit peu de temps dans ta semaine.
C'est beaucoup trop d'honneur.
Et comme je le disais, c'est des conditions un petit peu particulières parce que mon fils est malade et il est à la maison et je suis seul avec lui à la maison. Donc, il y a personne pour s'en occuper pendant qu'on fait l'émission. Donc, il est devant un dessin animé et j'espère que ça va bien se passer, mais il est possible qu'on ait une interruption intempestive ou plusieurs, il renifle beaucoup. Pour le moment, ça va, on verra comment ça se goupille au bout du compte.
Il peut participer à l'émission. Si
c'est ce qu'ont suggéré certains, je vais demander. Elskling, ça va? Tu t'amuses bien? Je voulais te poser une question, mon cœur. Tu peux mettre pause une seconde sur le dessin animé?
Je me demande qu'est-ce qu'elle regarde comme dessin animé.
Il regarde Caillou. Il aime beaucoup Caillou, oui.
Je connais pas
à mettre pause plus, hein. Je voulais te demander, est-ce que tu préfères Forza ou Animal Crossing? Le jeu de course ou Animal Crossing?
Allez, Forza.
Lequel tu préfères?
Forza.
Animal Crossing?
Ok.
D'accord, c'est bien. Ok, c'est pas grave. Regarde le dessin animé, mon cœur. Tout va bien. Ok, bon, écoutez, maintenant on sait.
Et moi, écoute, je propose, Patrick, que dès qu'on a un débat un peu houleux et qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose,
on demande son avis.
Voilà, on demande son avis et c'est lui qui tranchera et qui décidera. Voilà.
Très, très bonne suggestion. Donc voilà, bah écoutez, vous avez la réponse pour aujourd'hui, en tout cas, si Animal Crossing plutôt que Forza. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec mon fils. je vais remercier du coup, en passant, Mathieu WC, Jean Cavalier, Nicolas Egbert, Speyer, qui sont les patriotes qui soutiennent l'émission, et bien sûr les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steph Sinalco. Merci à vous tous de participer à la vie de cette émission, la vie financière qui est importante aussi. Je mentionne en passant que du coup, comme les conditions sont spéciales, on n'a pas d'after show, donc le super challenge de Julien, ça sera pour la prochaine fois. Les vrais savent, vous connaissez, mais ça sera pour la prochaine fois. Eh bien, écoutez, on va commencer avec un sujet qui est un petit peu compliqué à aborder. Non, c'est pas Activision Blizzard, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est Battlefield 2042 qui est sorti, c'était quand ? C'était la semaine dernière, je crois, vraiment en sortie finale.
Le 19. Voilà. C'est ça. Il y a eu une semaine avant une pré-sortie pour ceux qui avaient précommandé, etc., etc.
C'est ça, exactement. Et du coup, c'est un jeu dont je voulais parler depuis quelques semaines. On n'avait pas la bonne occasion, mais maintenant on peut le faire. Et c'est un jeu que j'ai moi auquel j'ai pas joué, donc j'ai suivi ça un petit peu de l'extérieur. Mais mon impression, c'est que c'est l'un des jeux sur lequel les gens s'opposent le plus. Bon, peut-être pas depuis si longtemps que ça, mais en tout cas, les gens s'opposent beaucoup parce que il y a des gens qui le critiquent parce qu'ils disent qu'il n'est pas assez fini et qu'il est sorti pas vraiment fini. Et en même temps, beaucoup de gens qui y jouent. Il y a un moyen de, comment dire, d'exemplifier autant que possible l'impression qu'on a sur ce jeu. C'est le fait que sur Steam, c'est à la fois l'un des jeux qui est le plus joué, vraiment de manière significative. On parle de Battlefield 2042, évidemment. Vraiment l'un des jeux les plus joués. Et en même temps, les plus dislikés de ces derniers temps. Et c'est une dichotomie dont on pourrait dire qu'on en a l'habitude sur Internet, mais c'est vrai que c'est quand même assez frappant, parce que si on écoute certains commentaires, il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, bon ok, le mode portal il est cool, certains modes sont cool, certains modes moins », et en même temps, c'est le Battlefield, l'un des Battlefields les plus joués de ces derniers temps, de ces derniers opus. Les notes sont également un petit peu sur tout le spectre. Il y a des très bonnes notes et des notes un petit peu moins bonnes, on va dire, voire mauvaises. Je suis curieux, du coup, vous qui jouez un petit peu, Panta, toi, t'y as joué un petit peu. Évidemment, Trinity, toi, t'y as joué beaucoup plus. Et évidemment, il faut mentionner que t'as fait une opération de sponsor avec avec DICE, donc oui. Évidemment, on le mentionne, mais t'es également une connaisseuse de Battlefield, toi c'est de là que tu viens en fait, à la base sur la scène publique.
Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, j'ai un passif assez important avec le jeu, étant donné que quand je me suis lancée dans le streaming, je ne jouais qu'à Battlefield. Et avant ça, en fait, j'avais un passif e-sport sur le jeu à la, on va dire, la grande époque de Battlefield, sur Battlefield 3 et avant sur Bad Company. Donc, effectivement, moi, c'était un opus que j'attendais énormément. Non pas que les derniers, pour moi, étaient mauvais, mais j'avais perdu cette petite accroche, cette petite flamme, tu vois, que j'avais avant avec Battlefield. Donc effectivement, j'attendais énormément celui-là. J'ai effectivement fait une opération promotionnelle avec EA, c'est important de le dire. Ça ne m'empêche pas d'avoir un avis, de trouver quand même des points négatifs. Mais si je dois résumer un petit peu ce que j'en pense... personnellement, les deux opérations promotionnelles que j'ai fait, c'était sur les nouveaux modes, notamment donc Hazard Zone et le mode Portal, que personnellement j'ai vraiment apprécié. Hazard Zone, c'est un mode en fait un peu, on va dire presque un mode qui pourrait s'apparenter compétitif. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui dans le futur peut vraiment devenir un mode compétitif vu que ça se joue en squad de 4. C'est un mode assez original, assez dynamique. Et personnellement, j'ai vraiment apprécié y jouer, et sachant que pendant la soirée, je le précise, je n'ai eu aucun souci de déconnexion, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de retours par rapport à ça. Et le mode Portal, pour moi, c'était un petit peu un clin d'œil aux joueurs des anciens Battlefield. Donc, je pouvais que aimer vu qu'il y avait du Bad Company 2 et du Battlefield 3.
Après, le mode Hazard Zone, c'est ce mode où on est donc en squad de 4 et il y a par moments d'immenses catastrophes qui viennent ravager la carte avec des tempêtes de sable monstrueuses, ce genre de choses.
Alors en fait, Ah pardon, je croyais que tu allais...
Non, vas-y, vas-y.
Excuse-moi, c'est moi, je t'ai coupé, désolé, je croyais que tu t'expliquais
autre chose. Je t'ai coupé avant, donc.
Oui, oui, non, il n'y a pas de souci, c'est moi. En fait, oui, tu as des squads de 4 sur la map, et l'objectif, c'est de récupérer ce qu'on appelle de la data. Donc en fait, il y a une espèce de truc au milieu sur plusieurs points de la carte où on va devoir récupérer des données. Les squads vont se battre pour ça, et on doit s'extraire avec le plus de data possible. Donc on peut emporter de 3 à 5 en fonction des bonus choisis sur soi et par personne, par squad. Et l'objectif, c'est de partir avec le plus de data. Mais bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'en fait, il y a 2 points d'extraction, un premier et un deuxième qui arrivera un peu plus tard. Et bien évidemment, tout le monde veut s'extraire et une seule squad peut s'extraire par hélicoptère ou avion qui arrive. Donc c'est un mode où on rentre vraiment dans l'art, hein, si on peut dire ça comme ça, et qui est, je trouve, très intéressant sur le plan compétitif.
D'accord. Vas-y, Pampa.
Ouais, juste, c'est EA qui essaie de faire l'équivalent d'Escape from Tarkov. Hein. C'est littéralement un genre un peu de niche dans la sphère des FPS multi, un peu coop, un peu compétitif, un peu survivaliste. C'est un genre qui vraiment a bien percé sur Escape from Tarkov, qui a quasiment inventé la formule et qui du coup est en train d'être repris par EA au sein de Battlefield et tout ça.
D'accord. Donc c'est de là que ça vient. Il y a aussi d'autres modes. Il y a un mode grosse opération avec, je crois, 128 joueurs sur la carte, enfin un truc vraiment significatif, dont les retours sont peut-être un petit peu moins bons, j'ai l'impression, parce que beaucoup de gens disent peut-être les moins organisés. Et c'est pas facile de s'organiser parce qu'il n'y a pas de voicecom au début, donc faut passer par Discord, ce genre de choses. Le voicecom arrivera, on ne sait pas quand, mais après le lancement, c'est l'un des griefs des joueurs. Et ce mode-là, beaucoup de gens disent, en fait, on passe beaucoup de temps à courir comme des fous sans vraiment savoir où on va aller et on se fait sniper de loin et donc on recommence après. Et on est enfin, les spawns sont pas super bien organisés, c'est un petit peu frustrant. Et à l'opposé, le mode portal que tu évoquais, tu peux nous parler des deux, hein, bien sûr, mais le mode portal que tu évoquais, c'est celui que tout le monde a l'air d'apprécier, où on a toutes les armes, les cartes, de plein d'anciens Battlefield et on peut créer des modes custom. Et ça, vraiment, c'est le retour super positif. J'ai l'impression que c'est sur ce mode que tout le monde adore.
Oui. En fait, je suis assez d'accord. Moi, le mode, on va dire, classique, il va y avoir de la conquête et ce qu'ils appellent maintenant de la percée, qui était anciennement de la ruée. Donc, prise de points pour le premier et explosion de bombe pour le deuxième, attaquer ou défendre. Et je suis assez d'accord sur le fait que Battlefield, effectivement, c'est des grandes cartes. Ça a toujours été quand même assez représentatif du jeu. Mais ils savaient aussi faire des cartes un petit peu plus réduites, un petit peu plus dynamiques à ce niveau-là. Et pour l'instant, le retour que j'ai, moi, c'est que j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup les armes. Enfin, l'ambiance générale me plaît. Mais effectivement, je me sens un petit peu noyée dans ces cartes qui sont très grande. Donc, si j'avais un point un petit retour négatif, ce serait là-dessus. Et je pense qu'à terme, il faut vraiment qu'ils rajoutent peut-être des cartes un petit peu plus réduites. Après, effectivement, pour le fait de jouer à plusieurs, là, on le ressent d'autant plus. C'est ce que je disais en live. Ça m'est arrivé d'aller y jouer toute seule. Et je leur disais, vous voyez, là, c'est un Battlefield qui montre qu'il faut jouer en squad, en fait. Parce que jouer seul, parfois, ça peut être très compliqué. Ça dépend, en fait. Si tu tombes sur une bonne équipe, c'est cool. Si tu tombes sur une équipe qui s'en fout totalement, qui n'a pas l'habitude de Battlefield et qui n'a pas trop compris le principe de s'entraider, etc., en fait, tu te retrouves très vite à mourir un petit peu à la chaîne. Concernant le mode portal, je suis d'accord, je pense que ce qui plaît, c'est que déjà, il y a ce crossover possible entre les anciens, choisir les armes des anciens, créer ses propres modes avec des cartes qui sont à la fois assez grandes pour représenter un Battlefield, mais qui sont des cartes emblématiques, en fait, du jeu et qui ont ce bon ratio assez grand, mais assez dynamique, en fait, à l'intérieur.
D'accord.
Alors, si je puis me permettre, du coup, sur Portal, moi, je suis assez d'accord avec Trinity. C'est une très très bonne idée et tout, et c'est vraiment cool de se replonger dans des BF comme BF 1942 et tout ça, avec les armes d'époque, avec les maps d'époque, genre El Almein. Enfin, moi, ça m'a rappelé énormément de souvenirs sur BF 1942, et j'étais vraiment comme un gosse en y jouant. Après, tu fais vite le tour parce que côté contenu, finalement, t'as que deux maps par épisode, quoi, à représenter. Oui, tout à fait. Et t'as très peu d'armes, et je crois même qu'ils ont désactivé le gain d'XP, parce qu'il y a des petits malins qui, à travers le mode portal, ont fait des serveurs XP infini, où en gros, tu butes des bots en boucle et ça te fait grimper ton XP. Donc, ils ont désactivé ça. Donc, du coup, en fait, tu y joues un peu pour rien, quoi. Donc, je suis un peu à la fois émerveillé par ce qu'ils ont réussi à faire et en même temps un peu frustré parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. L'autre pan qui est intéressant, c'est le All Out Warfare, tu l'as dit, Trinity. Ça baboule, il y a des maps immenses, trop grandes, je suis assez d'accord avec toi aussi. Moi, je regrette énormément qu'il n'y ait pas de map urbaine, mais vraiment urbaine, quoi. J'ai joué un peu, hein, je dois avoir 4 heures hein, sur Battlefield 2042. Mais tu vois, il y a une map asiatique un peu avec des buildings de partout et tout. C'est très joli. Tu peux faire des magnifiques dogfights ou des combats d'hélico à travers les buildings. Ils l'avaient bien montré dans les trailers. Mais en termes d'intérieur, enfin, c'est d'une pauvreté hallucinante. Moi, je me souviens de maps comme Strike at Karkand et tout ça sur BF2 notamment. Ou bah merde quoi. Enfin, c'était un jeu d'extérieur et d'intérieur, de close combat. Donc de combats vraiment très intimistes, quoi, où on va être à quelques mètres à peine de notre adversaire, et des maps avec des snipers qui font des tirs à plus d'un kilomètre, quoi. Enfin, c'était ça en fait la magie de Battlefield, c'était de combiner un peu tout, d'avoir de l'infanterie, d'avoir des véhicules, d'avoir
de pouvoir te déplacer à pied d'un point à l'autre, parce que là le vrai problème, et on le redit, on va un peu se répéter, mais c'est que pour aller d'un point à un autre, il y a des points intéressants quand à l'intérieur des bâtiments, mais entre, tu as un open field qui fait 2 kilomètres, et du coup ça devient un peu compliqué par un moment, bien que ça puisse être intéressant dans le mode percé. Par contre, dans le mode percé, moi j'ai vécu la dernière fois une game où j'étais comme une folle, où là on avait vraiment l'impression d'un vrai combat, on était tous en ligne, on était genre 60 joueurs et on avançait comme ça, on se faisait dégommer mais on se réanimait, etc. Et on avançait, et là c'était intéressant dans le mode percé. Je trouve que justement c'est un peu plus... J'ai pris plus de plaisir dans le mode percé parce qu'effectivement c'est moins le bazar, tout le monde va vers le même point, donc on se retrouve plus facilement à être une cinquantaine à essayer de rusher.
Excuse-moi Patrick, juste rebondir sur un truc. Tu l'as dit, Trinity, il y a vraiment cette impression d'être en équipe sur le mode percé, mais moi je trouve l'un des plus gros griefs et à raison qui a été fait à l'égard de cet épisode, c'est qu'il a voulu transformer le team play, c'est-à-dire que maintenant tout le monde peut faire n'importe quel rôle, il n'y a plus d'importance d'avoir telle classe, et donc t'es limité à tel type de matériel que tu peux emmener, et ton boulot c'est vraiment réanimer les gens quand t'es médecin par exemple. Ça n'existe plus, quoi. Enfin, vraiment, maintenant, tous les équipements sont relativement interchangeables. Tu n'as plus l'impression de jouer un support, ou de jouer un médecin, ou de jouer un assaut. Ça, ils ont totalement éradiqué cette idée parce qu'ils veulent que n'importe qui puisse se débrouiller face à n'importe quelle situation. Donc, c'est très bien pour les joueurs qui sont solo, sauf que les gens qui jouent solo, généralement, jouent peut-être à d'autres licences, hein, peut-être à Call of Duty, mais quand tu joues à Battlefield, tu joues pour être au cœur d'une escouade. Et ça, malheureusement, ils ont voulu un peu l'éradiquer, et ils sont en train de faire machine arrière à toute vitesse là, avec les updates récents et futurs, hein, qui vont arriver très bientôt. Il y en a un qui arrive d'ailleurs aujourd'hui, pour essayer de gommer un peu ça et de réintégrer un peu de teamplay, quoi, dans cette formule.
T'es d'accord, Trinity. C'est un peu... en fait, au final, ce que j'en retire comme enseignement, c'est que le jeu, visiblement, d'après la plupart des gens, est sorti un peu tôt, voire trop tôt, mais pas... Il y a des bugs, clairement, il y a des problèmes. Il n'était pas prêt à sortir, mais pas au point qu'il soit injouable. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui s'y amusent, mais beaucoup de gens conseillent quand même, à moins d'être un die-hard de Battlefield, attendre quand même qu'un certain nombre d'updates soient arrivés. Là, au final, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes plus négatif que positif quand je vous écoute. Mais quand on en discutait avant, j'avais l'impression que vous étiez plus positif que négatif. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous recommandez le jeu ? Qu'est-ce que vous en pensez au final, si on doit faire une mini-conclusion sur le jeu lui-même ?
Moi, je pense que ça dépend ce qu'on recherche. Moi, personnellement, je suis quand même plus positive de mon ressenti de joueuse. Je suis quand même plus positive parce qu'en fait, par exemple, si le mode conquête, pour l'instant, c'est pas trop ça, l'avantage, c'est qu'il y a la possibilité de faire plein d'autres choses. Je pense qu'il y a quand même des bonnes idées. Je le redis, pour moi, Hazard Zone reste une très bonne idée parce que moi, je viens, comme je disais, d'un passif e-sportif et c'était très compliqué, en fait, d'organiser des modes compétitifs, etc. Quand à la base, le jeu n'avait que de la conquête ou de la ruée. Donc, je pense que il y a des bonnes idées. Comme on disait, il faut attendre effectivement les updates. Ça a toujours été comme ça, quasiment. Mmh. On va pas se mentir. Il y a toujours eu un petit temps d'ajustement, etc. Sachant que EA, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même de ce que j'en retiens, ils écoutaient beaucoup la communauté. Et parfois même, ils l'ont trop écouté sur certains opus. quand ils remettaient les armes, enfin tous les deux mois, ça changeait d'arme et tout, etc. Enfin, ça a changé la méta des armes. Donc moi, personnellement, je suis quand même plutôt positive. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Hormis, vraiment, pour moi, le point noir, à mon avis, hormis les bugs qui vont être réglés, ça se règle des bugs, c'est que les maps conquêtes, voilà, comme on disait, sont un peu trop grandes. Mais si vous aimez les combats, c'est un peu réaliste, quoi. C'est un peu bordélique, ça part dans tous les sens. Si vous aimez ça, il y a quand même une ambiance BF qui est là. Ils sont très forts sur le sound design. Ils font toujours un taf assez énorme sur les véhicules, sur tout ça. Et quand tu es là en train d'avancer avec ta squad et plein d'autres gens et que ça tire dans tous les sens, qu'il y a un hélico qui se crache, etc., tu ressens quand même ce qu'on veut dans un BF aussi, c'est-à-dire l'immersion totale dans le combat. Donc, personnellement, ouais, je reste sur une note positive, mais j'attends personnellement des nouvelles cartes pour ce qui concerne le mode conquête.
D'accord. C'est un peu la promesse de BF, en fait, traditionnellement. C'est l'équilibre entre l'arcade de Call of Duty, qui est très, très arcade, et des simulateurs un petit peu plus simulateurs de combat, je vais dire au hasard Arma, que je connais pas bien, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et c'est le bon équilibre, et on a quand même l'impression qu'il faut jouer en équipe, que c'est plus réaliste, etc. Et donc, cette promesse-là est tenue pour toi, Trinity. Panta, toi, qu'est-ce que... Alors, t'as beaucoup moins joué, c'est une première impression.
Ouais, en fait, je me réfugiais un peu derrière le test de Aubin de l'équipe de JV qui a mis 18 sur 20, étant donné que lui a adoré la proposition de cet épisode. Moi, j'y ai joué 3-4 heures, j'ai fait surtout du Portal, parce que je suis tombé amoureux de El Almein, que j'ai retrouvé près de 20 ans plus tard. J'ai assez peu joué à tout le reste, donc je vais pas avoir un avis très fixe. Mais en revanche, je vois beaucoup d'updates là qui arrivent. Là, l'update d'aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 150 correctifs. Donc, le côté jeu pas fini, il leur manquait clairement 2-3 semaines, quoi. C'est bête à dire, hein, mais il leur manquait 3 semaines de finition.
Du coup, pardon, je t'interromps pour te poser une question à propos de ça spécifiquement. Sur tes quelques premières heures, est-ce que t'as trouvé que les bugs étaient vraiment problématiques ou est-ce que t'en as vu ? Non, c'est l'impression que j'ai aussi.
En fait,
c'est pas le cas.
En fait, le problème, on en parle assez souvent à la rédac, mais c'est un peu la loupe grossissante des réseaux sociaux et de la presse et de Steam qui fait que en fait, un jeu quand il sort et qu'il a des problèmes de finition, d'un extérieur, t'as l'impression que le jeu est injouable parce que littéralement tout Twitter fait un florilège des bugs les plus drôles et tout ça. Les médias s'en chargent aussi de faire des compiles, de dire mais qu'est-ce qui va pas, quelle est la raison de la grogne. Et en fait, t'as l'impression que le jeu est littéralement injouable. Alors que, je suis désolé, j'ai une très bonne config PC. J'y joue sur PC qui est peut-être la version, je dirais à tout hasard, la plus stable. Et encore, j'ai ouï dire que les versions PS5 et Xbox Series étaient impeccables aussi. Donc, l'œil extérieur des réseaux sociaux et tout ça, des médias, nous donne à coup sûr une image très négative du jeu, alors qu'il est loin d'être impraticable. Et moi, ce que j'ai retrouvé en quelques heures, c'était vraiment ce sentiment d'être dans un truc qui est... un gros bordel, ça c'est sûr, un gros bordel, mais moi c'est ce que je recherche dans Battlefield. En fait, je veux jouer à un truc où je me dis ok, je ne verrai ça que dans Battlefield. Il y avait le motto de la licence, c'était Only in Battlefield, uniquement dans Battlefield, c'est-à-dire que tu vas vivre des séquences que tu ne verras nulle part ailleurs. Et moi, je suis désolé, en 3-4 heures de jeu, j'en ai eu plein des séquences où à chaque fois, je faisais Alt F10 pour sauvegarder les 30 dernières secondes de la séquence, parce que juste, c'est improbable. Je me retrouve dans des trucs formidables. Donc ouais, pour moi, c'est un jeu que je vais continuer. C'est un jeu que j'ai eu par mes propres moyens. Hein. C'est clairement pas genre... J'ai pas looté une clé, hein. C'est vraiment moi je suis content d'avoir eu ce jeu avec ma carte graphique et bah voilà, je kiffe mes games dessus et je vais attendre les mises à jour évidemment pour avoir plus de stabilité et ils vont aussi corriger le team play. En tout cas, j'espère que c'est ce qui compte faire après les nombreux reproches qu'ont formulé les différentes communautés de joueurs. Mais voilà, juste j'attends de voir. Et je suis pas négatif à l'égard du jeu. De toute façon, comme tu l'as dit, Trinity, tous les Battlefield, ils sortent un peu pétés dans la précipitation et ensuite c'est corrigé. Hein.
C'est l'impression que j'ai eue. Hein. Pour être honnête, les gens auxquels je fais confiance qui parlaient des bugs disaient pas ça le rend injouable. Ils disaient juste c'est un peu chiant, c'est un peu handicapant, mais c'est pas du tout au niveau de certains jeux qu'on voit sortir et qui sont effectivement la risée de l'internet.
Ça va, Loulou?
Ah, il a sorti trois mouchoirs de la boîte en même temps. Ok, bon, tout va bien. On peut continuer. Merci pour ce petit tour d'horizon de Battlefield 2042. J'espère que les auditeurs auront un petit peu le panorama pour se faire leur propre opinion. Parlons un petit peu de jeux de combat. Tiens, je ne sais pas si vous êtes fan de jeux de combat, mais moi, je suis un grand fan de jeux de combat. Et donc, je vais en parler. Voilà, c'est mon émission. En fait, il s'est passé un truc sur l'Internet mondial et français. C'est que Arkane est sorti, la série Arkane, dont on ne va pas parler beaucoup aujourd'hui, mais dont je ne tarie pas, au sujet de laquelle je ne tarie pas d'éloge. C'est invraisemblable. Si vous voulez m'en entendre parler, vous pouvez écouter Super Laser Punch qui va sortir bientôt là, parce qu'on va faire c'est un podcast où on parle essentiellement de séries Marvel, mais aussi d'autres choses, et on va parler d'Arkane et on va faire une grande partie dessus parce que c'est une série incroyable et je crois que j'ai jamais vu un truc aussi réussi dans ce domaine. Mais bon. Je vous ai dit qu'on allait faire
pour faire une toute petite aparté, s'il y a encore des gens qui auraient un doute pour regarder la série, sachez que moi, je suis vraiment, je déteste LOL. Mon mec m'a tanné pendant 3 semaines ou 2 semaines pour la regarder. J'étais là, mais non, mais tout le monde en parle. Tu sais, il y a un peu ce côté révulsif. Tu vois, genre tout le monde en parle, ça m'énerve, j'ai pas envie. Et on a commencé. Et moi, j'étais en mode, bon, déjà, j'aime pas trop les trucs d'animation. C'est pas du tout mon truc. Et honnêtement, on est à 2 épisodes. Et là, en fait, j'attends qu'on puisse se caler pour regarder la suite. La série est exceptionnelle. Vraiment, c'est dingue. Mais donc, si vous hésitez, allez-y. Hein.
Trinity, tu veux dire que tu n'as vu encore que 2 épisodes?
Ouais, j'ai vu que 2 épisodes et je suis déjà à fond.
J'aimerais être toi, Trinity, pour plein de raisons. Hein. Mais pour celle-là
j'en
en particulier.
J'en ai vu qu'un, moi.
Oh là là.
J'en ai vu qu'un aussi, ouais.
Alors, en fait, la série... Bon, on va pas trop en parler, comme je disais, mais elle est en 3 arcs de 3 épisodes et les 3 arcs sont bien et du coup quand on regarde un arc à la fois c'est encore le meilleur moyen de le voir, on peut pas toujours, mais c'est le meilleur est devant vous et oh là là, bref, bon, donc je vais pas en parler plus. Allez écouter Super Laser Punch, mais moi non plus je connais pas LOL, enfin j'ai essayé 3 fois, j'ai détesté, je suis un vrai... C'est pas juste que je connais pas, c'est que je sais que c'est pas pour moi, LOL. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est pas pour moi, et donc peut-être que la série sera pas pour moi. De moins en moins, parce que tous ceux qui l'ont vu disent, mais non, on s'en fout, regardez-la. Et c'est simplement exceptionnel. Ouais, juste exceptionnel.
L'animation, tout, la qualité, allez-y, foncez.
Non, mais... je ferai des spoilers dans Super Laser Punch pour m'écouter en parler.
Ça t'énerve, mais du coup...
ça t'énerve,
ah là là, non mais de toute façon, je spoilerai pas, mais pour les auditeurs. Mais du coup, la raison pour laquelle je voulais en parler ici, c'est que c'est un coup marketing incroyable pour Riot, qui du coup a réussi à éveiller de l'intérêt pour son univers et ses univers et ses jeux, mais en plus amener à s'intéresser à ces univers tout plein de gens qui ne connaissaient pas League of Legends et qui étaient même rebutés par League of Legends. Et comme ils ont plein de jeux différents et surtout des jeux en préparation, ça peut amener des gens qui s'y seraient pas intéressés à s'y intéresser à l'avenir, et notamment Project L, dont ils ont habilement dévoilé un petit peu plus de choses ces derniers jours avec la sortie d'Arcane. Project L, c'est leur jeu de combat. C'est un jeu de combat qui est en développement depuis un bon moment, qui est développé par Tom et Tony Cannon, qui sont les fondateurs de l'Evo, qui est le grand tournoi de jeux de combat du monde. Et donc, ils avaient commencé à développer un jeu, ils ont été rachetés par Riot, et ils ont dévoilé un petit peu plus de choses sur le jeu dans un tweet. Alors, le jeu en lui-même, il y a quelques informations. Je vais vous mettre dans le chat le tweet pour que vous alliez voir ça si vous n'avez pas vu, mais les graphismes ressemblent. Il y a deux choses à noter. D'abord, c'est un jeu un assist fighter, c'est un jeu de combat en 2D, combat 2D type Street Fighter, mais avec, on joue deux personnages à la fois qui peuvent venir s'assister l'un l'autre. Et encore plus important, c'est un jeu dont les contrôles, comme le jeu qu'ils avaient développé avant d'être acheté, seront extrêmement simples. C'est-à-dire que pour faire un coup spécial, on a un bouton coup spécial. Et pour faire des coups spéciaux différents, on fait avant coup spécial, arrière coup spécial, etc. Donc, la prise en main elle-même, l'exécution est hyper facile. Mais la stratégie, en tout cas c'est leur promesse, la stratégie est évidemment beaucoup plus complexe que ce que pourrait laisser penser, il n'y a qu'un bouton, c'est pour les bébés, quoi. Ce qui est un petit peu une manière de présenter les choses un peu élitiste qui est complètement injustifiée à mon sens. Mais ce qui marque énormément sur Project L, c'est à quel point c'est dynamique, c'est graphiquement impressionnant, et enfin, ça ressemble un petit peu à la série, hein, pour être honnête, à Arcane, mais c'est tellement beau, ça donne envie de jouer, quoi. Je comprends pas comment on peut voir ça et pas se dire « Ah ben, j'ai envie de jouer à ça, c'est évident, bon, je suis un fan de jeux de combat, mais je suis curieux. » Tu avais l'air d'avoir vu aussi passer ce tweet, Panta ?
Ouais, bah en fait moi je surveille Project L depuis l'annonce qui avait été faite à l'Evo il y a un an ou deux déjà.
Ça doit faire 2 ans au moins, ouais.
Ouais, ça doit faire 2 ans et depuis on n'avait pas eu d'infos, et effectivement, comme tu le dis, c'est copier-coller de leur précédent jeu, hein, Rising Thunder, c'est le concept. C'est t'as une touche et voilà quoi. Et après c'est chacun des persos qui a ses spécificités. Là on le voit avec Echo par exemple, qui est un personnage de League of Legends qui joue beaucoup avec le temps, qui rembobine tout. Il va avoir des compétences qui vont permettre de geler le temps, de ralentir son adversaire. Donc on va plus jouer avec les effets du personnage qu'avec les manipulations à devoir déclencher pour faire un coup. Donc c'est plutôt malin, et tu le disais très très bien, hein, ils ont une stratégie vraiment de globalisation. Ils vont essayer de taper sur toutes les communautés ciblables, sur tous les genres ciblables, pour à chaque fois créer amorcer une attache entre le public qui n'était pas forcément ciblé par League of Legends et qui va devenir un amateur de l'univers de Runeterra, susceptible d'aller essayer d'autres jeux.
Complètement.
Donc il y a une vraie... Ils sont hyper malins, et moi ils ont réussi à m'attraper, hein, aussi, parce que League of Legends, moi j'y jouais en 2011, 2012, donc au tout lancement, et puis après il y a eu des tonnes de mises à jour, aujourd'hui il y a plus de 150 persos, je n'ai absolument pas la foi d'apprendre les counters de ces 150 persos, de savoir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je me retrouve face à lui. Donc en fait j'ai juste la flemme de m'intéresser à League of Legends, mais je joue beaucoup à TFT notamment, donc Teamfight Tactics, qui est un des jeux qui a été lancé dans la droite lignée du 10e anniversaire, hein, qui a fait que Riot Games mérite son S à la fin de Games à présent, et qui a donc plus qu'un seul jeu à son actif. Et donc Teamfight Tactics m'a aidé à comprendre, à connaître chacun des persos, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je lance League of Legends ou Wild Rift, la version donc mobile et bientôt console, eh ben, aujourd'hui, je sais reconnaître les persos, je sais ce qu'ils font, je sais à peu près quel type d'attaque ils vont avoir, s'ils vont être à distance ou au corps à corps. Donc, en fait, je suis déjà matrixé, préparé mentalement pour être un joueur de League of Legends. Et c'est ça qui fait qu'ils sont très, très forts chez Riot Games. Et vous êtes pareil en regardant Arcane, vous êtes matrixé, vous pouvez comprendre League of Legends.
Mais c'est ça, il y a, en fait, ils sont sur plein de genres. Hein. On a évidemment Legends of Runeterra, on a, enfin, le jeu de cartes. On a, alors c'est que Valorant qui est en dehors de cette, univers, le FPS. Mais donc il y a tous ces jeux. Ils préparent un MMO également. Ils sont vraiment Riot à 200 à l'heure. Et ils ont Riot Forge, dont on parlait il y a une semaine, qui est leur département partenariat label pour lequel ils travaillent avec des développeurs extérieurs pour faire des jeux finissables, parce que eux ils font des jeux qui s'intéressent à des communautés de jeux e-sportifs,
service,
voilà, jeux service e-sportifs, et les autres font les jeux pour solo en gros. Et c'est vraiment Riot qui est, comme on dit en anglais, they're firing on all cylinders, ils sont à fond partout. Et je veux parler des Platform Fighters dans une seconde pour faire le lien avec Projectel, mais franchement, Projectel, ça m'a donné très, 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 très envie. En plus, tu vois des personnages sans dévoiler, ouais. tu vois des personnages que tu vois dans la série Arcane, et donc forcément, comme tu le disais, t'es matrixé, quoi. T'as tout de suite envie de les jouer.
Mais tu vois, je sais pas si... Imagine si t'avais pas vu Arcane, est-ce que ça t'aurait donné envie ? Parce que Rising Thunder, finalement, c'est la même chose et ça a pas un succès de ouf, tu vois.
Non, c'est, mais c'est pas aussi beau. Je trouve que c'était pas aussi beau Rising Thunder. Je l'aurais essayé parce que c'est Riot qui sort un jeu de combat. C'est l'une des plus grosses, des sociétés les plus importantes au monde qui sort un jeu dans un genre que j'adore. Donc évidemment que je l'aurais essayé. Mais là. C'est pas juste que je vais l'essayer, je vais m'inscrire au bêta, je vais, tu vois, espérer mettre les doigts dessus dès que je pourrai, je vais être à fond, quoi. Ça se trouve, je l'aimerais pas, j'en sais rien. Mais là, je suis effectivement à fond. Et c'est pour ça que je dis, Arcane, c'est un coup marketing génial parce que ça va toucher à peu près toute la population des joueurs au monde. Je pense qu'il y a personne avec la qualité du truc et la presse qu'ils ont. Je pense que les gens qui n'auront pas regardé Arcane, qui sont joueurs de jeux vidéo, ils sont très très rares. Et du coup, comme ils ont des genres de jeux, ils ont des jeux dans tous les genres ou presque qui sont en train de sortir, tu regardes Arcane, c'est pas possible de ne pas vouloir plus de cet univers en fait. Et tu vas aller chercher et tu dis bon LOL c'est pas mon truc, les jeux de cartes c'est pas mon truc, ah mais il y a The Rune King, c'est un jeu de stratégie tour par tour, enfin jeu genre JRPG quoi, ah bah je vais l'essayer, tu vois. Donc c'est vraiment un investissement qui à mon avis leur est extrêmement
et
l'investissement quoi.
Et juste, ils sont très très forts parce qu'en fait, à chaque fois, ils reprennent une formule qui est certaine de fonctionner. Enfin, ils sont certains que ça fonctionne parce que littéralement, c'est à 80-90% l'ADN du leader, quoi.
Complètement.
Tu regardes,
Valorant, c'est CSGO.
Valorant, c'est CSGO, tu vois.
C'est ça. Runeterra, c'est un mélange entre
Hearthstone
et Magic. Oui, non, mais complètement. Mais
c'est systématique.
Complètement. Pour merde, je voulais dire un truc super intelligent et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave.
Tu voulais parler des plateformes dans des fighters.
C'est ça, je voulais parler des plateformes fighters parce que il y a eu plusieurs sorties de jeux de plateforme, de jeux de combat de plateforme dans une catégorie en fait qui était à 95% représentée uniquement par Super Smash Brothers. Et c'est un jeu qui existe, enfin évidemment, il a quoi 20 ans Smash, et depuis ça fait quoi 3 ans, quelque chose comme ça, on en voit de plus en plus. Et le dernier annoncé, c'est Multiversus, qui est un jeu dont on avait entendu des rumeurs dans l'univers de Warner Brothers. Donc, ça inclut DC, Game of Thrones, des trucs comme Bugs Bunny, Tom et Jerry.
Il y a Aria.
Il y a Aria de Game of Thrones, par exemple, qui peut se battre contre Bugs Bunny. Il y a aussi, a priori, Lord of the Rings, puisqu'ils font les films Lord of the Rings. On pourrait imaginer, si je ne me trompe pas, que Harry Potter rejoigne le truc. Donc, c'est un jeu qui est en free-to-play, qui va arriver en 2022 et qui est un platform fighter. Et au-delà du fait que le jeu sera bien ou pas, on a en plus de ça Brawlhalla, qui a été racheté par Ubisoft et qui continue son petit bonhomme de chemin, qui est là pour le coup une copie assez claire de Smash également, pour lequel il y a un event avec Ryu et Chun-Li qui vont rejoindre le roster de Brawlhalla. On a aussi, comment il s'appelle ce jeu de Nickelodeon, qui est aussi un platform fighter. Donc, de là que Et en plus, Nintendo est maintenant en train de faire des partenariats pour faire des tournois de Smash, un truc contre lequel ils se sont toujours battus, en fait, où ils ont vraiment été difficiles avec les histoires de tournois pour Smash depuis longtemps. Donc, on se retrouve en 2 ans avec un panorama du jeu de combat, en particulier des Platform Fighters, qui est le genre de Super Smash Bros, je ne l'ai pas précisé, qui est très très différent des fighters 2D comme Street Fighter ou King of Fighters, et des fighters 3D comme Tekken ou Dead or Alive ou ce genre de choses. Et donc c'est un autre genre de jeu de combat, et en 2 ou 3 ans on se retrouve d'un genre où il y avait que Smash, et encore Smash avant Ultimate, il n'était pas hyper... tout le monde jouait sur Melee qui avait 20 ans. Et donc on se retrouve avec 3 ou 4 représentants, là où il n'y en avait qu'un seul, un petit peu tombé dans l'oubli. Il y a des gens qui vont s'énerver si je dis ça, mais qui n'était pas... c'est pas vrai d'ailleurs, il n'était pas tombé dans l'oubli, mais en tout cas qui est revenu complètement sur le devant de la scène. Et donc, on a un troisième genre de jeu de combat qui est né en 2-3 ans, alors que c'était qu'un seul jeu. J'ai trouvé ça intéressant. Je suis sûr que les gens qui n'aiment pas les jeux de combat ne s'y intéresseront pas du tout. C'est chiant, mais voilà.
T'as raison, il y a vraiment eu une explosion du genre en quelques mois. Hein, tous ces platform fighters ont été annoncés en très très peu de temps et sont sortis très peu de temps après. C'est un milieu. Et tu vois, c'est pas si facile de faire un bon platform fighter. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs et de développeurs qui sont en train de se casser les dents sur cette question, parce que pendant des années, Smash a été tout seul. Il y a eu une tentative de PlayStation de faire un
platform fighter. Ah, je l'avais oublié, celui-là.
C'était pas ouf du tout.
C'est PlayStation All-Stars. Il y a même eu on m'en parlait dans le Discord. Il y a même Jump qui a fait un Jump, quelque chose qui était un platform fighter. Mais il est plus récent, celui-là. Il était 2018. Vraiment, on parle des 2-3 dernières années où ça a vraiment explosé. Ouais.
Ouais, clairement.
Bon, là, il est en développement depuis longtemps, hein, mais il est sorti il y a 1 an ou 2, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais, et puis il est pas si populaire que ça. Hein. Enfin, il fait des bonnes stats, mais tu vois, quand on parle de concurrent à Smash, il y a personne qui va citer Brawlhalla, quoi.
Et pour être parfaitement honnête, je suis pas certain que Multiversus ou le Nickelodeon soient concurrents à Smash sérieux, quoi.
C'est juste que il y a peu de chance.
Surtout qu'ils sont en train de se remettre dans l'univers des tournois, donc avec Smash. Donc, mais c'est intéressant à noter. Et la chose super intelligente que je voulais dire à propos de Riot tout à l'heure, c'est que en fait, même moi qui suis super méga pas fan de LoL, Wild Rift, leur version un petit peu plus simple de League of Legends, je me demande si je vais pas y jeter un coup d'œil quand même. Tu vois, c'est à quel point la force d'Arcane est importante.
Vas-y, rentre dans la famille.
Peut-être qu'un jour, tu sais, tout est possible. tu sais quoi, on reparlera de ça quand on aura fini Arcane. Et je crois que on en reparlera.
Je crois que ce serait le plus gros plot twist de ma chaîne, parce que depuis 7 ans et demi, genre moi quand j'ai commencé sur Twitch à l'époque, bon, LOL a toujours très bien fonctionné sur Twitch, mais vraiment à l'époque il y avait pas beaucoup de communauté FR, etc. Et quasiment toutes les femmes qui jouaient aux jeux vidéo sur Twitch jouaient à LOL. Et moi, je suis arrivée en jouant à Battlefield, tu vois. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu joues pas à LOL, en fait? Et j'ai dit, mais parce que je sais pas, ça m'intéresse pas. Et en fait, j'ai essayé une fois. Et depuis ce jour-là, c'est un peu la blague sur ma chaîne. Je leur dis, mais jamais je retourne sur ce jeu, quoi.
Mais franchement, essayez Wild Rift, hein, c'est vraiment très simple. Hein.
Est-ce qu'il y a le shop?
Ultra simple.
Est-ce qu'il y a le shop?
Oui,
sur
un shop.
Ah ben
shop,
voilà, c'est fini, c'est pas pour
le shop
moi.
Non, mais franchement, le shop est ultra simplifié. Genre, ils te disent, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire plus de dégâts? Tu veux faire plus de magie? Tu veux faire ça? Et ben voilà les items qu'il te faut. Non, c'est vraiment super bien fait.
Est-ce que c'est un peu comme le MOBA auquel j'ai apprécié jouer, le seul
Blizzard Heroes of the Storm.
Heroes of the Storm, j'allais dire Blizzard All-Star.
Ouais. C'est plus simple que Heroes of the Storm.
Oh ah ok, bon bah alors je vais tester, d'accord.
Ça y est, c'est fini, ouais, ça y est.
Franchement, allez-y à fond.
D'accord.
Et si vous avez un iPad ou une tablette, il tourne encore mieux. Genre moi j'ai un iPad Pro, il tourne en 120 FPS dessus. Donc c'est un bonheur, c'est super bien.
Bon, Priscilla, on en reparle à l'épisode de décembre. on rediscutera de tout ça. Bon, si vous êtes, je ne sais pas, convaincu que Patrick devrait jouer à Wild Rift ou ne pas y jouer, vous voulez m'envoyer des messages, vous voulez le faire sur Twitter ou sur le Discord, mais vous dites non, il faut que ça soit un truc qui ait encore plus d'impact pour que Patrick m'entende vraiment, eh bien vous pourriez m'envoyer un message sur Patreon. Au hasard, patreon.com/rdvjeux, c'est le moyen de soutenir l'émission. Et si vous passez par Patreon, je vais prétendre que je prête encore plus attention à votre message que je ne le fais par ailleurs. Bon, c'est un peu vrai quand même. Je dis depuis quelques semaines, en fait, soutenir l'émission sur Patreon, c'est l'équivalent de répondre à cette question. Est-ce que vous voudriez avoir 10 cafés par semaine et pas de rendez-vous jeu, ou 9 cafés et un rendez-vous jeu? Est-ce que vous préférez avoir ce 10e café ou un rendez-vous jeu? Eh bien, si vous dites non, le 10e café, j'en ai pas trop besoin, et je préfère avoir un rendez-vous jeu, eh bien, ça veut dire que vous pourriez soutenir l'émission pour un petit euro, par exemple. Vous pouvez devenir un patriote et vous avez droit à plein de bonus super cool, comme l'absence totale de pub. Vous avez également pas ce petit passage promo sur Patreon au milieu. Vous avez les time codes, vous avez les épisodes, les éditos spéciaux où je vous parle de plein de choses en plus, les after-shows qui sont généralement dans l'émission un petit bonus avec la communauté. Enfin, il y a plein de raisons de devenir patriote. Et la principale est évidemment le fait de soutenir l'émission, la fierté que personne ne pourra jamais vous enlever de pouvoir dire « je suis patriote du rendez-vous jeu ». Et ça, ça vaut toutes les autres raisons du monde. Et c'est, ça a au moins dans mon cœur la valeur de l'investissement que Riot a fait dans Arkane, au minimum. Merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu. Patreon.com/rdvjeux.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, parlons un petit peu de nos jeux du moment. Moi, je vais juste dire encore un tout petit mot sur Guardians of the Galaxy, que j'ai relancé cette semaine. Et en fait, c'est marrant ce jeu, parce que je suis sûr que je vais en parler à la fin de l'année. Petit hint, je vais en parler à la fin de l'année, parce que à chaque fois que j'arrête d'y jouer, je l'oublie un petit peu. Et à chaque fois que je le relance, parce que je me dis « Oh, je suis pas trop loin de la fin, faudrait que je recommence », je redécouvre à quel point il a des qualités incroyable. Alors, il a des défauts, certainement. Disons qu'il y a une grosse partie qui est assez moyenne. Le combat est moyen, les puzzles sont moyens, ok, voilà. Mais les visuels sont incroyables et surtout l'écriture, j'en ai déjà parlé, mais je vais juste en rajouter une couche. J'ai juste, je crois, jamais vu un jeu aussi bien écrit dans ce style-là. Les conversations de groupe sont hyper marrantes, les personnages sont intéressants et je vous dis, c'est tellement drôle et bien écrit, je prends un énorme plaisir à y jouer et je m'en souviens à chaque fois que je le relance et je ne sais pas pourquoi je l'oublie quand j'y joue plus. Mais donc vraiment, je veux dire, il est au top de sa catégorie dans l'écriture. Et donc, c'est vraiment un jeu, alors ce n'est pas un visual novel hein, ou un 3D novel, mais on y joue pour les personnages, que je ne vais pas spoiler, mais il y a des trucs vraiment sympas, pour les personnages et les dialogues. Il y a même des moments franchement émouvants. C'est pour suivre l'histoire. Et dans ce domaine, je trouve vraiment qu'il excelle et qu'il mérite une place sur une haute marche de l'escalier dans cette catégorie-là. Donc, je voulais juste le mentionner.
Il faut vraiment que je le continue, moi. J'ai fait un tout petit peu le début et puis après, j'ai été emporté sur d'autres jeux.
C'est un peu, disons que c'est l'année dans laquelle il sort est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose parce que il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, donc il peut être un petit peu noyé, mais en même temps, il n'y a pas tous les énormes mastodontes qu'on aurait dû avoir cette année, donc peut-être qu'on y prête un petit peu plus attention. Mais je suis d'accord que du coup, quand on le pose, quand on pose la manette et qu'on arrête d'y jouer, on n'a pas forcément envie, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais on n'a pas forcément envie d'y retourner, et moi je te dis, quand, à chaque fois que j'y retourne, je me dis, mais attends, mais c'est tellement beau, c'est tellement cool, je passe un tellement bon moment, je suis surpris de ne pas y être retourné plus tôt, quoi.
En fait, c'est le gameplay qui te plaît pas tant que ça, mais c'est l'attachement au personnage qui te fait revenir, quoi.
Complètement. Je veux dire, il y a des personnages qui sont... Le gameplay est vraiment oubliable. Il est... Bon, moi, il est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais vraiment oubliable, voire peut-être un peu mauvais. Mais l'attachement au personnage, ouais, il est... Enfin, il y a des personnages... Je vais pas spoiler parce que c'est tout basé sur l'histoire, mais il y a des personnages qui sont vraiment très, très cool et qui sont... On a toujours l'impression de faire partie de cette équipe. Et chacun des membres de l'équipe a sa personnalité qui est développée au cours du jeu, juste par les dialogues, juste par les interactions. Mmh. Et on a l'impression vraiment de faire partie de ce groupe, quoi. Et d'être, d'avoir des problèmes dans le groupe, de ne pas savoir comment les résoudre, d'être attaché au personnage. Enfin, vraiment, c'est très bien fait, quoi. Bon. Trinity, est-ce que tu as joué à autre chose que Battlefield ces derniers temps ?
Alors oui, florilège de jeux, je vais du coup essayer de pas trop m'attarder dessus parce que vu que j'ai été absente un bon moment pour diverses choses, voyages, etc. et événements, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Mais forcément là en ce moment, je suis en plein dans Forza Horizon 5, ouais. Que j'adore, je trouve le jeu génial, enfin voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir, juste gros point noir, le multi sur PC, c'est une cata, on n'arrive pas à se connecter, etc. Je suis obligée de le mentionner, mais le jeu est très cool. Et ensuite, j'ai joué à Unpacking, que j'ai pas encore fini, hein, Unpacking, le petit jeu de déménagement très très cool, mais surtout florilège de démos et de jeux d'horreur. Que je vais un petit peu énumérer. Donc là, il y a peu de temps, j'ai fait le Dark Pictures, le troisième opus, House of Ashes, qui est vraiment le jeu de jeu narratif, etc., basé sur les légendes sumériennes, celui-là, bien flippant, dans des grottes, tout ça. Moi, j'adore ce genre de jeu. Donc j'ai passé un très, très bon moment. Et là, ça fait deux jours, j'ai testé des démos. Si vous avez envie de trucs qui font bien flipper, alors le premier, c'est un jeu qui va sortir normalement l'année prochaine, qui est très inspiré, si vous aimez les ambiances à la Spielberg, que vous aimez les ambiances des films comme Signe, etc., vous avez la démo de They Are Here, qui est disponible, qui est une démo qui traite donc le sujet des extraterrestres, mais en version très très années 90, hein, avec les champs de maïs, etc. Il est flippant. L'ambiance sonore est géniale. C'est un jeu indépendant. Et honnêtement, allez faire la démo. Et comme d'habitude, si vous le pouvez, wishlistez-le, parce que c'est ce qui soutient les projets indépendants. Et du coup, moi, cette démo, c'est la troisième fois que je la fais. Et je trouve le jeu vraiment, il va être dingue, je pense. Le deuxième, c'est...
Juste une question sur They Are Here. C'est un jeu d'enquête... Puzzle, je vois la vidéo sur Steam, c'est des environnements 3D dans lesquels on se déplace et puis on trouve des indices, des trucs comme ça, et puis tout à coup il y a des aliens qui débarquent.
C'est ça, alors en fait ce qui se passe, là je ne spoilerai pas parce que c'est vraiment le pitch de base du jeu, mais visiblement il y a une famille qui est depuis un moment, voit des choses, il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans une région précise, et nous on est le classique journaliste qui veut venir enquêter, hein, et qui va aller là-bas, et quand on arrive là-bas, la maison est vide, et on nous a laissé des petites notes. Et on enquête là-dessus. La démo est très courte, hein. Ça dépend si vous êtes très flippé ou pas, en fonction de votre taux de peur, vous mettez plus ou moins longtemps, mais on est sur une démo de 15-20 minutes, donc on n'a pas encore l'entièreté du gameplay, mais honnêtement, excellent. Moi, ça m'a rappelé vraiment des souvenirs de la vieille époque extraterrestre des années 90. Et le deuxième, alors là, on rentre dans le, excusez-moi, dans les bas-fonds du glauque, c'est The Mortuary Assistant. C'est aussi un jeu. Voilà, c'est aussi un jeu qui est en démo. Alors, c'est surtout un jeu d'horreur, hein, au-delà. Donc, on incarne un personnage qui est un assistant mortuaire, donc qui travaille dans les morgues. Et bien évidemment, il va se passer des choses horribles. La démo est disponible, pareil. Alors moi, normalement, on m'a dit oui, la démo dure une heure. Avec moi, elle a pris deux heures, hein, parce que forcément, je mettais pause toutes les cinq secondes parce que j'avais peur. Mais si vous aimez les ambiances très glauques avec des mécaniques de peur efficaces, et bien testez la démo et wishlistez le jeu aussi si vous le pouvez, parce que ça va bien faire flipper. On attend la sortie.
Wow, d'accord, c'est effectivement.
c'est ton genre, hein, Patrick.
Ah mais complètement. tu vois, je mets le petit sur les genoux et ça sera parfait. Lui qui a peur des Goombas qui sautent dans Mario, tu vois, c'est.
Non, mais tu vois, mais là c'est fini, ça y est, vraiment, je vais conforter les gens dans la vision qu'ils ont de moi avec des crânes ensanglantés chez moi, quoi, tu vois.
Ok, bon, très bien. Eh ben, une fois le passage par la morgue fait, vous pourrez aller du côté de Johan, qui va nous parler
Humankind. Ouais, Humankind, je voulais. Mais alors, si juste je peux me permettre une petite découverte aussi, petite pépite indé de cette fin d'année, Inscription. Je ne sais pas si vous avez entendu parler
beaucoup
de ce jeu.
Beaucoup de gens nous en ont parlé. Il y a.
Est-ce que vous l'avez déjà pitché ?
Oui. On en avait parlé. Okay. C'était Médoc du Cozy Corner qui nous en avait parlé spécifiquement. Mais oui, j'y ai joué. Je l'ai lancé et j'ai pas continué. Je sais qu'il faut continuer. Ça m'a un peu rebuté. Mais oui, c'est tout le monde en parle. Jeu de l'année. Tous ceux qui l'ont fini en chantent les louanges. Donc
exactement. Bon alors je vais pas m'étendre plus là-dessus. Je vais vous parler de Humankind. Moi, je suis en train de le farmer ce jeu. C'est un 4X. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le genre, c'est de la stratégie gestion où en gros on doit collecter des ressources. Exploiter le terrain, avoir des relations diplomatiques avec les gens qui nous entourent et idéalement exterminer les ennemis, enfin bref, vous allez faire tout ce que fait une nation à travers l'histoire, c'est-à-dire essayer de prospérer, de s'étendre sur les terres, de gérer de plus en plus de ressources, de sites pleins de.
Bon, c'est un Civ, Age of Empires, un 4X. Quoi.
Exactement, voilà, exactement. C'est exactement ça, c'est un Civilization. Et en fait, c'est les Français de chez Amplitude, donc qui sont connus pour la saga des Endless, donc Endless Space, Endless Dungeon, Endless Legend, et qui se sont dit, bon, on maîtrise bien le 4X dans l'espace, le Endless Space 2 est un des meilleurs 4X jamais réalisés, eh bien, on va essayer d'aller un petit peu sur Terre, voir si notre formule peut fonctionner si on s'attaque à Civilization. Donc en gros, ils prennent tout leur bagage en termes de connaissances des 4X, de science, de la narration à travers un jeu de gestion, et ils l'amènent sur un terrain qui est déjà ultra monopolisé par Civilization et par 2K Games depuis plus de 30 ans, quoi. Donc c'est vraiment, ils se sont fixés un énorme défi et je trouve qu'ils l'ont réussi avec brio, quoi, parce que franchement, je viens de terminer ma première partie en 300 tours et je suis juste en kiff total sur la formule proposée. Je trouve ça beaucoup plus naturel, logique, pertinent, facile à comprendre. T'as moins l'impression d'être face à un jeu vidéo. Je prenais l'exemple parce que je fais des parties de temps en temps avec ma chérie sur Civilization et en fait, elle, des fois, elle joue la religion. Donc elle essaie de gagner en convertissant le plus de villes à sa religion qu'elle a créée et du coup elle peut gagner comme ça. Et en fait, sa partie, ça se résume à créer des prêtres qui vont ensuite parcourir la terre et aller se faire
évangéliser,
je sais pas. Ouais, c'est ça, se faire désintégrer de joie à côté des villes pour convertir les villes. Et ça n'a aucune allure. Vraiment, tu vois la partie, tu vois juste une file indienne de prêtres qui vont de ville en ville pour répandre la religion. Et je trouvais ça un peu. Tu dis oui, bon, c'est un jeu vidéo. Ok. Là, dans Humankind, t'as vachement plus de tableaux, de statistiques, de juste de trucs logiques à gérer. la proximité entre les villes, le fait que ils aient plus de stabilité que toi. Donc du coup, la stabilité des autres commence à convertir lentement mais sûrement les citoyens de ta propre ville. En termes de gestion, t'as des tonnes de mécaniques qui sont beaucoup plus logiques que dans un civilisation. Enfin bref, je suis amoureux présentement de cette formule qu'on me propose là pour le Civ Killer, en gros. Et je trouve vraiment que Humankind a ce qu'il faut pour révolutionner ce genre-là qui évolue pas beaucoup. Hein. Civilisation, ouais. C'est un truc qui progresse lentement, mais sûrement, un épisode tous les 5 à 10 ans qui va pas révolutionner non plus la formule, mais qui va juste l'améliorer, parfois gommer quelques erreurs du précédent, parfois tenter des trucs nouveaux. Mais là, vraiment, on a une autre vision, beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, je trouve, et qui mérite amplement d'être jouée. Alors attention, c'est pas... on va dire, il y a des tutos, hein, mais c'est, si vous ne connaissez pas les 4X, n'y allez pas tout de suite. Essayez peut-être de faire un Civilization 6 qui est plus abordable, qui est plus simplifié, et ensuite partez sur Humankind.
C'est un petit peu ma crainte. J'avais testé la démo à l'époque. Il est sorti en août, hein, donc il est déjà disponible depuis un moment. Il est sur le Game Pass sur PC. Mais j'avais testé la démo et j'avoue que j'avais été un petit peu submergé, overwhelmed by tous les menus, tous les trucs dans la démo. Je n'avais rien compris. Et tu confirmes. Trinity, je t'entendais acquiescer. Tu l'as testé toi aussi?
Et alors moi, je l'ai testé. J'ai eu la chance d'interviewer une des personnes du studio lors de l'événement Made in France, en fait. Et effectivement, alors moi, je suis pas une très grosse joueuse de 4X. J'ai quand même un gros affect pour tout ce qui concerne la gestion, etc. Et ce genre aussi de jeu. Mais je suis pas hyper forte à ça. Et personnellement, effectivement, on est un peu noyé sous la masse d'informations au début, mais c'est normal. C'est le genre du jeu en fait qui veut ça. Mais j'ai été hyper séduite, pareil par effectivement toutes ces petites subtilités dont tu parles. Même visuellement, moi je le trouve magnifique en fait. Je trouve qu'ils ont mis une patte visuellement qui fait vraiment plaisir à regarder. Et j'ai très envie de me faire une vraie partie, mais je sais qu'il faut que je prenne le temps.
Non, en
je
vrai,
faire une complète. Mais
en vrai, tu vois les 300 tours, moi je l'ai bouclé en 3 soirs, ouais. Ça a dû me prendre 7 ou 8 heures pour le finir. Sur une première partie, donc les premiers tours, t'inquiète pas que chaque tour, à chaque fois, avec le nombre de trucs à lire, le nombre de paramètres à prendre en compte, ça prenait parfois 5 grosses minutes, quoi.
Bien sûr, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi qui n'étais pas du tout fan de Civilization, je saurais pas expliquer comment ils ont réussi à faire ça, mais moi Civilization, je l'avoue, ça me faisait un peu peur en fait.
Ouais.
Tu vois, il y a un côté quand même un peu terrifiant sur ces jeux au-delà
c'est pas sûr.
Des jeux d'horreur, mais quand tu les vois de loin, que tu vois tout ça, tu te dis oulala, ça a l'air extrêmement compliqué. Et je sais pas pourquoi, malgré que Humankind soit pas forcément plus simple, et ben en fait je trouve qu'ils ont réussi à donner envie, tu vois, à des nouveaux joueurs d'arriver. Peut-être parce que c'est une nouvelle licence et que du coup les gens se disent vas-y, hein, ça fait pas le je sais pas combien de temps d'épisode ou quoi, et j'ai envie d'essayer.
Je suis assez d'accord. Et là
j'allais te poser des questions sur les autres.
J'allais dire, en termes de complexité, l'étape d'après, c'est Europa Universalis, Crusader Kings, tous ces jeux qui sont vraiment des jeux typiques à tableau. Et heureusement, Humankind et Civilization, ils sont encore dans l'esprit un peu, on va quand même ressembler à un jeu vidéo en étant un minimum graphique, avec des animations, avec des bonhommes à déplacer, tout ça. On est encore là-dessus. Hein.
D'accord, c'est pas l'extrême du genre.
Ouais, voilà, c'est ça.
T'as aussi joué à Halo Infinite, on en a parlé assez longuement la semaine prochaine, donc peut-être pas passer trop de temps dessus non plus, mais quand même avoir tes impressions. Et aussi Exo One, dont j'avais testé la démo, qui est vraiment un jeu étrange, dont j'avais parlé à l'époque, mais dont je suis très curieux de t'entendre parler plus, parce qu'il fait un petit peu le buzz ces jours-ci sur la toile. Mais Halo Infinite d'abord,
Alors, Exo One, on va aller très vite parce que je t'avoue que j'ai joué une vingtaine de minutes et je me suis dit il faut que je me le fasse sur une soirée complète. Il était extrêmement tard, donc j'ai pas pu le finir. Je voulais vous le pitcher, mais si t'en as déjà parlé, on va
éviter. Rappelle-le, c'était il y a un moment, c'était la démo cet été. Donc,
En gros, c'est un jeu où vous incarnez un genre de disque qui peut se transformer en boule et planer. Donc, en gros, c'est vous qui allez influencer son état, tantôt plat, tantôt sphérique, ce qui va avoir une influence sur sa gravité, en gros. Vous allez, si vous vous mettez en boule, en gros, vous pouvez plonger vers le sol, et si vous vous mettez en disque, vous pouvez planer, et suivant si vous étiez sur une montée, ben si au bout de la montée vous activez la forme de disque, et ben vous allez planer, même monter au-dessus des nuages et vous offrir des panoramas vraiment somptueux, parce que le jeu a une patte graphique terriblement photoréaliste. En fait, vous êtes littéralement un peu comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, vous êtes dans le Schwarz le plus total dans l'espace, vous savez pas vraiment où vous êtes sur une, peut-être une planète inconnue, et vous êtes une forme genre tantôt forme, je sais pas moi, mystique, tantôt véhicule extraterrestre, enfin je sais pas encore trop. Dans côté histoire, il y a une expédition spatiale américaine, il y a des souvenirs qui nous reviennent, qui arrivent sous forme de flash à l'écran, c'est un peu bizarre, mais globalement le cœur du jeu c'est rouler et planer.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est vraiment dans les paysages et on joue sur les vallées, les montagnes, on s'envole, ouais. Et on doit se déplacer dans ces environnements de planètes extraterrestres qui c'est sont vraiment magnifiques. Mais le jeu, c'est ils vraiment sont... juste de se déplacer et de jouer avec la gravité, ouais. Pour aller le plus loin possible, quoi.
C'est exactement ça. Et les décors sont, comme je disais, photoréalistes, mais quand même extraterrestres. Hein. C'est-à-dire, ouais, que tu vas avoir des immenses plaines somptueuse que tu pourrais voir sur Terre idéalement, sauf que au milieu de ces plaines il y a des formes géométriques étranges, un peu technologiques, avec des trucs qui ressemblent à de l'obsidienne et des LED d'un clavier RGB. Enfin bref, c'est assez mystique et franchement j'ai vraiment envie d'aller au bout. Je pense pas que ça se termine en très longtemps. Je sais que Indy à la rédaction a pu le finir pour le test et il m'a dit ça se termine en 2-3 heures. Donc je vais aller jusqu'au bout. Mais Halo Infinite, par contre, c'est mon premier Halo. Et pareil, et ben je kiffe tout simplement, le multi est terriblement, il y a une patate, quoi, vraiment t'as un sentiment d'être face à un truc qui est simple mais qui fonctionne terriblement bien. C'est pas le jeu le plus innovant du monde, t'as vraiment l'impression de jouer t'as vraiment l'impression d'être de retour en 2003 et qu'on te dit tiens, ce jeu est exceptionnel, et tu l'essayes, tu dis ouais, c'est un jeu vidéo qui est extrêmement simple dans ses règles et dans son fonctionnement, mais pouah, ça fonctionne terriblement bien et c'est fun à jouer, c'est prenant, c'est vraiment les sensations les plus pures du FPS qu'on ait vu en cette fin d'année.
Et c'est comme on le disait la semaine dernière, c'est simple, quoi, c'est pas 78 000 menus, tu joues et c'est fun tout de suite, quoi. Donc ouais, entre ça et Forza, ils ont vraiment deux jeux qui sont accueillants et qui ratissent très très large, parce que n'importe qui peut s'amuser. Alors c'est des genres très spécifiques, mais n'importe qui peut s'amuser, et c'est des jeux qui vont continuer à être updatés. On a vu plein de mises à jour pour d'annonces de nouveaux events multijoueurs pour Halo, qui d'ailleurs sont un peu frustrants pour certains joueurs, parce que les passes associées, c'est un peu pas ambigu ou ambivalent, mais c'est des trucs gratuits et des trucs qui sont uniquement cosmétiques, mais c'est très très long de les obtenir, donc c'est frustrant pour les joueurs quand même. Ouais. Donc ils ont fait un truc qui est une idée intéressante, c'est qu'ils ont un event qui dure une semaine et qui va revenir 4 fois dans l'année. Mais du coup, ouais, tu peux pas le finir dans la semaine, donc c'est frustrant pour les joueurs, en fait. Je crois que c'est la fausse bonne idée, ce genre de truc.
Mais en fait, donc, ils font vraiment un truc, ils font vraiment du jamais vu, avec une campagne solo qui est vendu et qui est présente dans le Game Pass, hein, et un multi qui est free to play et qui embrasse totalement le modèle économique des free to play avec, ouais, des battle pass et tout ça. Ce qui fait que les gens, en fait, qui se disent oui, mais moi je voulais acheter mon Halo, ils se disent en fait je vais devoir acheter que la campagne solo parce que le multi est sous forme de free to play, donc je serai obligé de repasser à la caisse régulièrement pour acheter mes battle pass si je veux profiter de tout ce que le support a à m'offrir. Donc en fait, on est un peu le cul entre deux chaises et au final, je pense qu'aucune communauté va s'estimer amplement satisfaite, sauf peut-être les gens qui sont sur le Game Pass et qui auront donc le solo intégré à leur abonnement et le multi,
je pense que c'est beaucoup
accessible.
De gens, hein.
Ouais. Ouais, je pense.
Mais donc voilà pour Halo, entre parenthèses, le mode campagne co-op, le mode campagne sortira au moment prévu, le 8 décembre, bien sûr, mais le co-op de la campagne et le mode forge, le mode de constructeur de niveau, on va dire, ont été repoussés encore plus loin qu'ils n'avaient été déjà poussés. Donc, c'est vraiment pas pour tout de suite ces modes-là, ça a provoqué quelques grincements dedans. Mais bon, je préfère qu'ils finissent bien ce qu'ils font. Et Forza a déjà eu 10 millions de joueurs. Alors, évidemment, ouais, tous ceux qui ont eu le Game Pass ont joué à Forza, et il y a plein de gens qui l'ont acheté en plus, comme on l'avait vu sur Steam notamment. Mais bon, du coup, 10 millions, c'est quand même pas rien, quoi, pour Forza Horizon 5.
Ouais, c'est énorme.
Allez, quelques news, parce que mon fils est en train de... En fait, il prend, je sais pas si vous entendez la boîte de Kleenex qui retombe toutes les deux minutes. Il prend un Kleenex, il le pose délicatement sur son nez un tout petit peu, et puis il le jette. Et puis, deux minutes plus tard, il prend un autre Kleenex, et puis il va me finir la boîte. Et les Kleenex à trouver en Finlande, je vous raconte pas, c'est impossible.
Oh là là.
Ils ont que des serviettes, vous savez, pour de
oui,
papier,
en papier
de table,
ouais,
quoi. Et les vrais Kleenex, genre doux, c'est... Donc dès que t'as un rhume, tu t'éclates le nez. Enfin bon, bref. Problème de Finlande. Petite news rapide avant qu'on conclue l'épisode. D'abord, Grand Theft Auto Trilogy, The Definitive Edition, ils ont réussi, Rockstar, à faire un truc que je ne pensais pas, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont presque en passe de se racheter de la sortie pas glorieuse de la trilogie, on en avait déjà parlé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, d'une part, ils commencent déjà les mises à jour nombreuses et significatives quelques semaines après la sortie problématique, mais en plus de ça, ils ont remis en vente les versions originales des jeux, donc des trois jeux, Grand Theft Auto 3, sur PC, bien sûr, et en plus de ça, ils donnent à tous ceux qui ont acheté la trilogie, ils donnent les versions originales qui avaient été sorties d'avant, donc qui n'étaient plus. Et du coup, tu dis, ok, là, c'était un petit peu, vous étiez un petit peu en train de prendre le chemin de CD Projekt avec Cyberpunk et les problèmes qu'ils ont connus à ce moment. Et là, tout à coup, tu dis, bah, ils donnent les jeux à tout le monde, c'est les originaux, ok, c'est pas ce que t'avais payé, c'est pas ce que t'as acheté, c'est pas la promesse qu'on t'a fait, mais c'est quand même assez cool, quoi. Donc,
ouais.
Je me demande à quel point c'est cynique et qui s'était dit, bon, le jeu est pas prêt, si ça merde vraiment, on fera ça, donc on a un plan, ça va passer, ou à quel point c'est quand même une intention honorable. Mais en tout cas, je trouve que bon, on peut pas en demander beaucoup, beaucoup plus que ça. Si, un jeu qui marche à la sortie, ok, mais étant donné ces conditions, bon.
Moi, je trouve que c'est quand même un sacré fiasco, hein, parce que, enfin, littéralement, les versions classiques avaient été retirées de la vente parce que la trilogie allait arriver, donc elle allait sublimer le matériel de base. Là, ils se retrouvent empêtrés dans ce fiasco du lancement qui les oblige à offrir les versions classiques. En gros, la trilogie sert plus vraiment, hein, c'est sorti.
Bon, elle est toujours là, ils continuent à travailler dessus, il y a les patchs, hein, quand même.
Ah ben, il y a les patchs, et les patchs demandent visiblement, hein, si on en croit certains insiders, à des équipes internes de Rockstar de bosser en catastrophe sur la trilogie, alors que c'était pas le but à la base.
Ah ben, c'est pas eux qui l'ont développé, oui. C'est...
Ah non, c'est Grove Street Games, hein, qui a développé cette trilogie, donc c'était normalement invisible pour le staff de Rockstar, qui pouvait prendre le temps de peaufiner des contenus pour GTA Online et pour Red Dead Online, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Et ce qui, visiblement, si on en croit ces mêmes insiders, les oblige à reporter des contenus de GTA Online et de Red Dead Online parce qu'il faut patcher en catastrophe la GTA trilogie.
Disons que au niveau développement et sortie, c'est clairement un fiasco. Je vais pas te dire le contraire. Mais par contre, au niveau management de crise, PR, le fait de remettre les jeux à disposition et de les donner aux gens qui ont acheté la trilogie, je trouve que bon, c'est quand même ça gomme un petit peu la frustration du truc, quoi. Pas complètement, mais c'est pas trop mal. Évidemment, Cyberpunk, c'est à eux que je compare. Tu vois, Cyberpunk, bah ils n'avaient pas ça dans la poche. Ils auraient pu dire, on vous file The Witcher 3, mais je pense que tout le monde l'avait déjà vu.
Tout le monde l'avait déjà.
C'est ça. Donc, je note ça comme ça. Il y a une histoire marrante aussi, vous pourrez aller regarder, mais certains sont convaincus que Rockstar a mis une image de GTA 6 dans un cadre photo dans la trilogie. C'est assez, comment dire, c'est l'internet enquête, hein, un petit peu classique, mais j'ai trouvé ça marrant. Vous pouvez aller regarder ça. Annonce très importante, on en parle souvent de ce jeu majeur. Lawn Mowing Simulator va avoir une nouvelle extension médiévale. Non, c'est pas médiévale, mais c'est une nouvelle extension. C'est le jeu de tondage de gazon. Voilà, pour ceux qui veulent. Ça, c'est du jeu vidéo.
Quel kiff.
Un truc dont je voulais parler vraiment pour le coup, c'est Slow Clap qui fait un truc hyper malin. Ils ont, vous vous souvenez qu'ils avaient décalé la sortie de Sifu, ce jeu de combat kung-fu très très particulier qui avait fait forte impression. Ils l'avaient décalé de fin 2021 à fin février 2022. Sauf que, vous le savez, février 2022, c'est le, on l'appelle le February Apocalypse. C'est l'apocalypse des jeux vidéo. Il y a tout qui sort à ce moment, en gros. De Elden Ring à Horizon Forbidden West, et il y en a d'autres aussi. Et ben, en fait, ils s'étaient mis en plein milieu de ça. Je crois qu'ils sortaient le 22 février 2022. Ils avaient dû se dire, ça fait plein de deux, c'est facile à retenir. Et ben, ils ont fait un truc malin. Ils se sont dit, bon, on va s'écarter, on va avancer la date de sortie, c'est assez rare pour le signaler, au 8 février plutôt que le 22. Et je pense que c'est très malin parce que le 22, ils auraient été complètement noyés. Le 8, c'est suffisamment avant pour que les gens se disent « Bon, il y a ces jeux-là qui arrivent à la fin du mois, mais on va se faire un petit sifou en attendant et ça va être un bon moment. » Donc, je pense que c'est assez malin.
Ouais, carrément. Et puis, il faut se dire aussi... Généralement, on dit « Ouais, mais ils ont qu'à décaler. » Oui, mais en fait, tu peux pas décaler... Enfin, si tu décales, il faut décaler avant, parce que sur des jeux comme Horizon ou Elden Ring, tu sais que les gens, ils vont y passer des semaines et des semaines.
C'est ça.
Donc, ils auront aucune envie d'acheter un autre jeu avant un mois, par exemple. Donc, il vaut mieux arriver avant.
Et un mois après, ça change toute la configuration. Ouais. Il peut y avoir d'autres jeux, etc. Donc, c'est assez malin de leur part. En plus, ils ont mis une présentation. Ça sent plutôt bon, hein, Sifu. On verra ce que ça donne. Quoi d'autre? Call of Duty a décalé sa carte de Call of Duty Warzone d'une semaine et ça tombe... Ah, oui, pardon.
Oui, mon cœur. Tu veux un autre épisode de Caillou?
Ok, alors meubler une seconde, j'arrive juste
pas de soucis. Mais tu connaissais toi Caillou?
Pas du tout.
Pas du tout,
je vois pas du tout ce que c'est, je sais pas si on a ça en France.
Attends, je vais regarder sur Google.
Regardons sur Google, allons nous renseigner sur Caillou.
Caillou. Ah oui, Caillou, éducatif. Okay.
J'ai fini dans un quart d'heure, mon ange.
Bon, criquet de cailloux. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ils ont décalé pour Warzone la sortie de la nouvelle carte d'une semaine et ça tombe le jour de la sortie de Halo Infinite, la campagne.
Quelle surprise!
Alors, certains ont se sont dit que c'était peut-être une revanche contre les déclarations de Jim Ryan à l'encontre de Bobby Kotick. Je vous avoue que je pense pas que ça soit du tout quelque chose de sérieux.
Et Phil Spencer.
Alors justement, on va en parler dans une seconde. Et Phil Spencer, bien sûr, effectivement, pas Jim Ryan, mais Phil Spencer qui a embrayé sur Jim Ryan, puisque Phil Spencer, Xbox, Halo Infinite, tout à fait. Mais avant ça, je veux dire deux petites choses. Ubisoft a annoncé l'ouverture d'une sorte de parc d'attractions à Béziers, au milieu d'un autre parc. Un parc d'attractions Ubisoft, en fait. Pourquoi pas? Mais en même temps, what the fuck? Mais en même temps, pourquoi pas? Je le mentionne comme ça, parce que l'ambition serait de faire un vrai parc d'attractions à terme. Je sais pas si c'est l'idée la plus ridicule que j'ai entendue de ma vie ou le coup de génie, mais je pense qu'on saura que dans quelques années.
Mais je sais pas, tu vois, il y a les parcs, il y a eu les parcs Lego, il y a eu les parcs Rovio pour Angry Birds, il y a le parc Nintendo. Si Ubisoft est au meilleur de sa forme avec un assassin, un Tom Clancy pour faire du paintball ou je sais pas, tu vois, il y a des univers à développer, les lapins crétins pour les enfants. Non, franchement, il y a moyen.
Moi, je suis assez d'accord. Enfin, en fait, je pense que comment dire. Il y a le côté, bon, ben, on sent que ça va tirer sur les licences, hein, forcément. Enfin, on va essayer d'exploiter au maximum. Après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir d'essayer de développer ça? Moi, je pense que très honnêtement, ça peut marcher, en fait. Ça peut marcher. Ça parle à un autre type de consommateur, on va dire. Bon, par exemple, je suis pas quelqu'un qui va trop dans les parcs d'attractions, à part les trucs à sensations très fortes. Mais les Disney, tous les trucs un peu à licence
avec
comme ça, ça m'intéresse pas.
Et des pics.
Voilà. Avec des crânes ensanglanté, etc. C'est un parc d'attractions, un petit peu le Hellfest. Hein, mais du coup, là, tu vois, d'avoir potentiellement des licences qui peuvent me plaire avec des attractions en rapport avec le jeu vidéo, bah, je dis pas que j'irai pas avec mon backpack, tu vois, filmer, faire un live là-bas, ouais, quoi, par exemple.
Et puis, c'est vrai que tout n'a pas besoin d'être Disneyland, quoi. Ça peut être un truc qui parle aux gens de la région. Et puis, quand tu as des enfants ou des ados, il faut trouver des trucs à faire tous les... Peut-être pas des ados, mais un peu plus jeune, il faut trouver des trucs à faire tous les week-ends, parce que je vous assure qu'on ne reste pas à la maison toute la journée avec des enfants un petit peu jeunes. Pourquoi pas?
Et tu vois, y a Ubisoft, ils sont aussi très sur éduquons la jeunesse, formons les plus jeunes au code et tout ça. Ils ont sorti déjà des applications pour apprendre le code aux plus jeunes avec les lapins crétins, par exemple. Tu peux t'imaginer dans ce parc d'attractions une certaine vocation à éduquer, former les plus jeunes. Peut-être révéler les futurs développeurs de demain, quoi.
Je me demande s'ils mettront un stand éducation au comment repérer le harcèlement sexuel, voilà notre expérience dans notre société, comment ça s'est passé, tu vois, ce genre de truc. Ça pourrait être intéressant.
On a osé.
Sans transition, il faut. Pardon, j'ai besoin d'aide, messieurs dames. Exactement. On va y venir. J'ai besoin d'aide, messieurs dames. J'ai vu que 13 Sentinel Edge Stream était en promo. Il est à genre 20€. Et j'ai vu qu'il était vraiment pas cher. Et c'est un jeu dont on me parle depuis 2 ans, depuis sa sortie. Mais il fait 30 heures, c'est un visuel novel. J'ai pas le temps, mais j'ai envie de l'acheter. Donc, venez sur Twitter me dire pourquoi je ne devrais pas acheter 13 Sentinels, même si c'est un jeu extraordinaire. Parce que je suis tenté là, mais hyper tenté.
Alors moi, je l'ai chopé, je l'ai commencé. J'ai compris que les personnages étaient tout nus dans des mechas quand ils te parlent. Et en gros, du coup, ils sont tout nus et penchés vers l'avant, sans trop en montrer, mais même en étant à poil. Je me suis dit, OK, c'est pas pour moi. Mais...
Bon, écoute, mais t'es un petit peu... Je viens de voir le dernier personnage de King of Fighters 15, alors vraiment, mais je disais sur Twitter, SNK, ils ont pas reçu le mémo sur la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Hein. C'est le pire de de la caricature, tu sais, c'est une nana qui est en bikini, en gros, à peu près. Ils ont fait un effort, comme on le répondait sur Twitter. Elle a les coudes couverts, donc tu vois, c'est quand même...
Ça va, la décence quand même.
C'est ça. Mais bon, bref, ok. Autre news, Epic Games a racheté Harmonix, qui avait développé Rock Band, et ils ont dit ils vont bosser sur Fortnite. Le nombre d'opportunités, de trucs qu'on peut faire dans Fortnite, avec, vous savez, tous les artistes qui font des concerts, de Ariana Grande à... est-ce que Lil Nas X avait fait un concert dans Fortnite aussi? Je sais plus, mais enfin...
Je crois que c'était sur un concurrent, mais oui, c'était Travis Scott qui avait fait un...
Il y avait Travis Scott, bien sûr. J'ai l'impression que Lil Nas avait été aussi, peut-être pas, mais bon, bref, il y en a eu plein. Il y a des opportunités, il y a des trucs à faire. C'est hyper bien malin, sûr. Je trouve, de la part d'Epic.
Ouais, et puis, Harmonix, les pauvres, Fuser a pas bien marché. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu sur la pente extrêmement raide. Donc, moi, je suis content pour eux qu'ils puissent s'exprimer sur un mastodonte comme Fortnite, hein, sans aucune mauvaise considération. Moi, j'y joue beaucoup et je trouve que le génie derrière. Les concerts interactifs que tu vas vivre à 60 joueurs, enfin, et les fins de saison et tout ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui est extrêmement sous-estimé dans l'industrie, et c'est un vrai tour de force, quoi. Vraiment, je trouve ça incroyable à chaque fois, quoi.
Je pense que d'une certaine manière, il y aura beaucoup plus de gens qui vont jouer à leur jeu dans Fortnite que vont jouer. Bon, Rock Band, c'était quand même gros, hein, mais bon. tout petit détour par les films et les séries télé basées sur des jeux vidéo. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Alors visiblement, c'est pas top. Hein. Moi, je disais, oh, laissons sa chance au produit. Ça a pas l'air incroyable, on va dire. Espérons qu'Amazon fasse un meilleur boulot. Avec Mass Effect, il semblerait que le deal soit presque signé pour une série Mass Effect développée par Amazon. Ils font des choses très bien, Amazon, ils font des choses aussi moins bien, mais il y a quelques séries qui sont vraiment exceptionnelles pour Amazon, donc laissons sa chance au produit, on ne sait pas, on va voir. Et puis, Kojima, Hideo Kojima, réalise enfin son rêve d'enfant et de toujours. Il a ouvert Kojima Productions à Los Angeles. C'est un studio, enfin pardon, Kojima Productions, la boîte, a ouvert un studio à Los Angeles pour développer des films. Je pense que Hideo Kojima est aux anges, là. Il réussit enfin ce qu'il voulait faire.
Il revient à ses, voilà, à ses premiers amours, enfin.
Complètement, ouais. C'est ça. Bon, et après tout ça, on va dire quelques mots sur les suites de l'affaire Activision Blizzard. C'est mon fils qui commence à se plaindre. Non, c'est, forcément, on évoque Activision Blizzard et Bobby Kotick, là. Tout de suite, il n'est pas content. On disait la semaine dernière, alors on a fait tout un rapport là-dessus la semaine dernière, je pense que vous l'aurez écouté. Si ce n'est pas le cas, allez le réécouter parce qu'on ne va pas refaire tout le sujet. Mais la dernière chose qu'on avait évoquée, c'était le fait que Jim Ryan, président de PlayStation, s'était exprimé en interne, mais ce genre de communication, on sait que ça va leaker en externe, et donc c'est écrit pour. S'était exprimé sur le fait qu'il était extrêmement perturbé et déçu de ce qui avait été, ce qui était sorti dans l'enquête du Wall Street Journal, et on disait à ce moment, ça serait, rendez-vous compte, si Microsoft et Nintendo font la même chose, ça pourrait être vraiment le début de quelque chose, parce que Bobby Kotick, il semble vraiment indéboulonnable. Et bien, figurez-vous que quelques heures après, Phil Spencer a fait à peu près la même chose, en disant qu'il était disturbed and deeply troubled par ce qui se passe chez Activision. Nintendo, il y a deux jours, a également fait la même chose, en qualifiant la situation de disturbing, donc perturbante, et ils ont déclaré qu'ils allaient travailler avec l'ISA, l'Electronic Software Association, qui réunit tous les plus gros membres de l'industrie aux États-Unis, pour adresser la situation, pour parler de la situation. L'ISA a fait une déclaration qui condamne le harcèlement, les abus et le maltraitement, excusez-moi, je traduis en direct, sans nommer spécifiquement Activision, mais enfin, c'est clairement ciblé à eux, c'est ciblé sur eux. Et Activision Blizzard a pas vraiment réagi à ces dernières choses. On a de plus en plus de signatures en interne et en externe de gens qui veulent le départ de Bobby Kotick. Je vais essayer de retrouver la signature interne qui est maintenant signée par presque 2000 personnes, qui représentent quoi, 15% des actifs d'Activision, donc qui ont signé nommément, qui ont mis leur nom et qui ont dit on n'a plus confiance en Bobby Kotick, on veut qu'il parte. Il y a beaucoup plus de gens qui ont signé en externe, mais ça, je pense que ça a moins de poids. Pendant ce temps-là, Kotick lui-même a visiblement évoqué le fait qu'il pourrait quitter son poste de président s'il ne réussit pas à résoudre les problèmes vite. Et je vous avoue que j'y crois à peine parce que le board, c'est ses potes et ils ont fait une chose qui est vraiment du théâtre, quoi. Ils ont créé un comité pour qui va suivre l'affaire et informer le board de l'évolution. Sauf que le comité, c'est pas un comité externe, c'est pas un comité constitué d'experts ou de gens qui sont de tierce partie. C'est des membres du board lui-même, donc c'est un comité du board avec deux personnes qui sont sur le board, dont une des deux femmes. Je crois qu'il y a deux femmes sur le board et elle est dans le comité. Et c'est les gens du board, donc je vous avoue que j'y crois pas énormément, mais voilà, c'est ce qui se passe en ce moment du côté de Activision Blizzard. Le plus choquant, c'est évidemment le fait que maintenant on a PlayStation, Xbox et Nintendo qui se sont exprimés sur le sujet, demi-publiquement. C'est complètement inattendu. L'ISA qui s'y joint. Si la pression reste, il n'est pas dit que ça reste, mais si la pression reste, il n'est pas impossible que ça puisse donner quelque chose, même si plus j'en apprends sur la situation et la situation interne d'Acti, j'ai l'impression que les seuls qui peuvent faire quelque chose autre que des tribunaux, c'est le board, et que le board, ils ont peu de raisons de le faire, à moins que la pression devienne intenable. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que la pression devienne intenable, parce que là, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, ce que l'industrie peut faire de plus, à moins que Phil Spencer et ou Jim Ryan disent bah, « on sort les jeux ACTI du store ». Et j'ai pas l'impression que ça en prend chemin.
Tu sais, Spencer, ce qu'il a dit, c'est quand même, nous allons reconsidérer tous les aspects de notre collaboration.
Complètement.
Ah oui, les mots sont lâchés, quoi. C'est vraiment, attention, on condamne et on va éventuellement prendre des mesures pour réagir face à ces valeurs qui ne sont pas les nôtres.
Donc, Si Xbox le fait, comme les autres se sont exprimés également, très difficile pour les autres de ne pas le faire aussi.
Bien sûr, ils vont perdre la face s'ils ne font rien. Si Xbox, qui est historiquement quand même l'outsider le plus total et qui, ces dernières années, s'est positionné comme le fédérateur qui dit « on est tous joueurs, on est tous dans la même industrie, on ne doit pas se voir comme des concurrents, mais comme des partenaires potentiels », Xbox, qui incarne cette image-là,
Spencer,
un peu du good guy, surtout Spencer, qui est vraiment l'icône quoi, de ce mouvement interne chez Xbox, si jamais eux prennent des décisions, chez Nintendo et chez Sony, ce serait vraiment extrêmement difficile de ne pas en prendre à leur tour.
Je suis d'accord, ouais. Donc voilà, on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps que ça sur le sujet parce qu'on en a beaucoup passé la semaine dernière. Je veux quand même mentionner deux ou trois petites choses en plus. PlayStation est poursuivi en justice par une développeuse qui accuse la société d'avoir discriminé les femmes, elles spécifiquement, et les femmes en général, dans la société, et de les payer moins que les hommes, à des postes équivalents. Et je pense que beaucoup de gens ont dit « Ah ben voilà, donc ce qu'a dit Jim Ryan ne veut rien dire, toute l'industrie est pourrie, etc. » Et évidemment, c'est un truc important à prendre en compte. Je veux dire, c'est la base des choses dont on parle souvent, c'est la question des salaires qui sont moins élevés pour les femmes et qui est un problème dont je ne veux pas diminuer l'importance. C'est évidemment quelque chose de sérieux. Mais je pense aussi qu'il est un petit peu contre-productif de mettre du coup tout le monde dans le même sac, surtout que quand ce dont on parle du côté d'Activision, c'est pas que ça, il y a ça aussi bien sûr, et c'est un gros problème, et peut-être que dans le procès il y aura d'autres choses qui ressortiront ensuite du côté de PlayStation aussi. De ce que j'en ai compris jusqu'ici, c'est vraiment une question de paye, de salaire. Mais du côté d'Activision, on parle quand même de harcèlement, de discrimination encore plus violente que juste le salaire, de harcèlement, de menaces de mort, littéralement. Bobby Kotick a proféré des menaces de mort à l'encontre d'une assistante, d'accusations de viol. Donc, on est dans une configuration qui est quand même très, très loin de ce dont on parle aujourd'hui pour PlayStation. Donc, les mettre dans le même sac, c'est contre-productif, je crois, pour tout le monde, encore une fois, sans diminuer du tout l'importance de ce qui se passe du côté de PlayStation et qui est un problème systémique dans l'industrie et, à vrai dire, dans la société. Je pense qu'on le sait. Donc, c'est pas le même niveau, quoi. Donc, ne les mettons pas au même niveau et surtout, ne jetons pas le tout aux oubliettes, ou en disant... ouais, non, mais c'est bon, c'est tous des pourris, ils sont tous pareils, donc ce que dit Jim Ryan ne veut rien dire, ce que veut faire Xbox, ça n'a aucune importance, etc. Et Activision, tout le monde est pareil. Non, non, ce qui se passe chez Activision en ce moment, c'est très grave, c'est souvent très grave dans ce genre d'affaires, mais là, c'est encore pire, et il ne faut pas tout mélanger, quoi. Même si, encore une fois, c'est la troisième fois que je le répète, clairement, cette histoire de procès avec PlayStation, ce n'est pas un truc qu'il faut... qu'il ne faut pas prendre à la légère. Merci beaucoup.
Oui, tout à fait.
Et les deux autres choses que je veux dire, c'est d'une part, un tout petit mini rayon de soleil ou silver lining sur les nuages chez Blizzard. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois de ça, Jeff Kaplan avait quitté Blizzard, c'est le directeur d'Overwatch, et il était parti vraiment par la petite porte. Et du coup, c'était peu de temps avant ces scandales, et du coup, on s'est tous demandé... Merde, est-ce que Papa Jeff, lui aussi, celui qu'on appelait avec affection Papa Jeff, qui avait une très bonne relation avec la communauté, qui avait une image importante et qui a surtout été à la tête d'Overwatch, qui est on en discutait sur le Discord, je pense, tout le monde sera d'accord, le jeu qui a le plus intégré l'inclusivité et la représentation dans le jeu lui-même et de manière hyper élégante et hyper forte, vraiment, c'était un tenant du jeu. Et on s'est dit, mais merde, est-ce que lui aussi, quoi? Est-ce que lui aussi, il fait partie de l'équipe des pourris qui faisait toutes ces choses répréhensibles? Tracy Kennedy, qui est, si je ne m'abuse, une productrice sur Overwatch, a tweeté plusieurs choses, certaines qu'elle a ensuite effacées, mais d'autres qui sont restées, en disant à demi-mot que les gens qui sont partis de l'équipe d'Overwatch, les directeurs, ils sont partis parce qu'il y avait des problèmes culturels avec la société et qu'ils ne pouvaient pas rester et qu'il ne pouvait pas résoudre ses problèmes tant que le leadership était ce qu'il était. Donc, j'espère que ce que ça veut dire, c'est que Jeff Kaplan était plutôt du côté des good guys que du côté des bad guys, quoi. Et il est tellement symbolique, en fait, de l'équipe d'Overwatch, et moi, c'est un jeu sur lequel j'ai passé des centaines d'heures, que je me dis peut-être qu'il y en a... Et je sais qu'il y en a plein. Il y a plein de gens qui sont dans la boîte, qui n'ont rien demandé à personne, qui sont des gens bien et qui sont pourris par tout le reste de l'ambiance. Mais je veux dire, c'est si au moins il y en a un qu'on ait de l'espoir, quoi, qu'on se dise que c'est pas tous des pourritures, quoi. Et ça serait... Ouais. Je sais pas quand on saura, mais je voulais le mentionner parce que c'est Tracy Kennedy, qui est donc une femme, qui l'a dit. Et donc, il y avait vraiment un gros point d'interrogation sur la sortie de Jeff Kaplan.
Ouais, surtout qu'elle est, elle est pas hyper logique, étant donné que Overwatch 2 est plus que jamais dans le doute, quoi. Enfin, le jeu a quand même été annoncé hyper tôt avec une formule qui a depuis été revisitée, avec des ajouts qui font un peu débat au sein de la communauté. Est-ce qu'un 2 était vraiment nécessaire, etc. Et là, quand on voit la tête pensante qui quitte le projet, on se dit, oula, il y a un problème. Soit le projet va droit dans le mur, soit il avait autre chose
Avait des casseroles, quoi. Ouais.
Ouais, ouais.
Et peut-être, en tout cas, c'est ce qu'elle insinue. Peut-être que le truc, c'est que lui, il était juste pas content de la manière dont ça se passait dans la boîte et dont et vraiment dans les questions de culture sociétale, quoi. Bon, c'est un truc que je voulais mentionner parce que je vous avoue que c'est hyper déprimant tout ça. Et je veux pas non plus fermer l'émission sans dire un mot sur Riot, dont on a beaucoup parlé en début d'émission et dont certains se diraient peut-être, oui, mais attends, Riot aussi, ils ont eu leurs problèmes. Et évidemment, c'est vrai, j'en avais parlé à l'époque aussi. Mais Riot, en fait, ils ont eu des problèmes qui étaient à peu près du niveau de ceux de Ubisoft. C'est-à-dire, c'était pas des menaces de mort et des trucs comme ce qu'on entend parler chez Activision, qui est vraiment le fond du fond, mais c'était des problèmes très très sérieux de harcèlement, de discrimination, enfin de boys club, de ce genre de trucs, de bro culture, etc. Et moi, de tout ce que j'ai entendu depuis, majoritairement, c'était des gens en interne qui sont encore chez Riot maintenant, des gens qui sont partis de chez Riot depuis, qui disent: franchement, les choses évoluent dans le très bon sens. Je ne sais pas s'ils y sont arrivés encore, si tout est parfait. Évidemment, je pense que ça, c'est difficile que tout soit parfait. Mais vraiment, les témoignages que j'ai, moi, de gens en interne, c'est que vraiment, ça va mieux, c'est géré avec sincérité et ça évolue dans le bon sens. Donc, je veux espérer que ça, c'est possible. Enfin, c'est le but, en fait, dans toutes ces histoires. Et quand ça ne va pas, bah, on en parle et on le dit. Ouais. Mais quand ça va bien, c'est le but, quoi. Le but, c'est pas que tout soit brûlé et que l'industrie du jeu vidéo soit disparaisse, parce que c'est tellement partout que ça serait le résultat. Le but, c'est de corriger, de réparer, de mieux faire et d'avoir un peu de justice. Et il semblerait que, encore une fois, moi, je suis pas chez Riot, j'ai pas mes petits papiers non plus, mais ce que j'en entends de différentes femmes spécifiquement qui sont en interne chez Riot, c'est: ouais, ça va mieux, ça marche et c'est possible. Donc, jusqu'à preuve du contraire, même s'il y a certaines voix qui mettent un petit doute, dans l'ensemble, mon estimation de l'extérieur, c'est que j'ai l'impression qu'ils gèrent les choses. C'est l'un des rares qui semble pouvoir gérer les choses correctement. Et comme on a parlé de Riot et qu'on parle maintenant de Activision, je suis sûr qu'il y a des gens qui se demanderaient pourquoi on parle pas de ça. C'est une précision que je voulais faire.
C'est important de le rappeler.
Ouais, bien sûr.
Voilà, pour cet épisode. Écoutez, on a même fait long. Je pense qu'il va falloir qu'on retire l'écran de mon enfant parce que généralement on est très strict. On est très très strict avec les écrans. Aujourd'hui, entre Animal Crossing, officiellement meilleur jeu de la Terre et meilleur que Forza, hein, selon le sondage interne de la famille Béja, on a passé beaucoup de temps et puis là il y a les dessins animés. Donc on va s'arrêter pour aller jouer un petit peu avec des vrais trucs qui ne sont pas des écrans. Mais avant ça, un grand merci à vous deux. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver? Honneur à Panta, honneur aux derniers qui sont arrivés, au nouveau. Où est-ce qu'on te retrouve, dis-moi, Johan?
Alors, vous pouvez me retrouver sur JV, je suis pas mal en vidéo dessus. On peut me voir également sur le stream, sur Twitch, et j'ai également une chaîne perso où je stream 3 fois par semaine depuis maintenant 5 ans. C'est Panta JV. PANTHAAJV, tout attaché. Et voilà, je stream généralement le mardi, le jeudi et le dimanche.
Magnifique, merci beaucoup. On mettra le lien vers ton compte Twitter, qui est souvent le moyen le plus simple d'avoir toutes ces infos, dans les notes de l'émission. Miss Crâne Sanglant, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Miss Crâne Sanglant.
Vous pouvez me retrouver pour là où j'expose mes crânes sanglants en direct sur Twitch.
C'est pas, en plus, il y a l'écran de fond, c'est des super plantes super jolies, c'est paisible, c'est zen et tout.
Non, mais je suis une personne un peu ambivalente, on va dire. Hein. C'est-à-dire que j'adore la nature, la relaxation, et à côté, je joue à des jeux où on joue un assistant à la morgue. Hein. Donc, bon, bah, écoutez, c'est un peu l'ambivalence de ma personnalité. Mais vous pouvez me retrouver du coup en direct sur Twitch quasiment tous les jours sur la chaîne Trinity, tout simple, rien de plus. Et sur Instagram, trinity.twitch, et Twitter, Mythix Trinity, très chiant à écrire. Voilà, vous n'arriverez peut-être pas à me trouver. Voilà.
Bah, c'est encore plus simple puisque le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, donc vous tapez, voilà. Et vous y arrivez direct.
Nickel.
Merci super. Beaucoup à tous les deux. Moi, c'est sur notepatrick.com, tous les liens vers tous mes comptes réseaux sociaux et aussi vers le Discord où on a plein de conversations super sympas. On a même un channel spoil arcane pour ceux qui n'en peuvent plus et qui veulent parler de la série. Vous pouvez nous rejoindre là-bas. On a aussi, bien sûr, le Twitch où on est généralement, bon, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est pas le cas, mais le lien vers le Twitch et puis le lien vers le Patreon. Patreon.com/RDVjeux si vous voulez soutenir l'émission. Vous vous souvenez, hein, la question c'est 10 cafés et pas de Patrick ou 9 cafés et un Patrick. Le choix peut être difficile, mais si vous arrivez à répondre 9 cafés et un Patrick, Patreon.com/RDVjeux pour, je vous oblige pas, mais peut-être y réfléchir et voir les super bonus que vous pourrez avoir. Le plus gros bonus étant le cœur qui grossit d'une taille parce que vous soutenez un créateur que vous appréciez. Un grand merci à vous tous. Je vais aller m'occuper de mon fils et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big.